Mais on n'arrête pas de vous expliquer que c'est le phare du pays de Morlaix.
Bah ouais, mais il savait pas la chorale Saint-Fulbert.
De Saint-Fulbert.
Les sons des autres sur Canal B.
African Anarchist Radio.
Radio.
All you free Negroes say yeah.
Yeah, yeah.
Gardez vos yeux fermés et écoutez.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur Canal B et aussi sur Equinox et ici sur Fréquence Mutine. On est donc à Morlaix, nous, vous êtes soit à Rennes, soit à Namur, soit à Brest, en tout cas pour écouter un programme qui va durer 2 heures en ma compagnie. Ça va être pas facile parce que on se réveille, c'est des émissions du matin un peu, hein, alors au niveau de l'articulation, faut qu'on se mette en bouche. Je suis en compagnie de Rao, moi-même c'est Paco, il y aura du Gilles Dapuget qui passera tout à l'heure alias Ch'tou pour aussi co-animer cette émission. Donc autour du Festival des Arts de la Rue en pays de Morlaix, qui se trouve où? Morlaix, sur la côte nord, à la frontière entre le Léon et le Trégor, un endroit très joli, un peu plus vieux. Alors, vous avez vu des spectacles, vous, Mustera, hier?
Eh ben, pas beaucoup, puisque effectivement, le temps de récupérer nos esprits. Si, on a pu quand même aller voir La Beauté du Monde, qui était qui jouait dans le magnifique théâtre du pays, en pays de Morlaix. Non, le théâtre de Morlaix. On fait très attention maintenant, parce qu'on a été repris. Voilà, c'est
un
ça.
Un million de fois.
Le jingle fait un petit clin d'œil à ça. Le festival, c'est pas le festival le phare de Morlaix, c'est le festival en pays de Morlaix. Alors, pour nous, un peu...
Pays de Morlaix, Morlaix, tout ça, c'est pareil.
Alors que pour les organisateurs, c'est
hyper, super important.
Oui, parce que ça dépend aussi des financeurs, et sans financement, pas de festival. Donc pour eux, effectivement, et pour nous,
ouais, mais les financiers sont bien gentils, mais ils nous compliquent la tâche en tant qu'animateur radio.
Ah bah oui, parce que s'il faut commencer à mettre sur les jingles le festival qui, grâce...
Du pays de Morlaix, de la communauté de communes de Bretagne, de la région, régionale,
départementale, subventionnée et aidée également soutenue par la DRAC, région Bretagne en théâtre, qui n'est pas pareil que théâtre région en Bretagne, enfin bref, on met effectivement un peu les pattes là dans une dimension
surréaliste
de la cuisine interne du festival, mais qui est quand même intéressante et dont on se fera l'écho, puisque le fourneau donc qui est à l'organisation, aux manettes de l'organisation, organise en ce moment même justement une réunion de un peu de cuisine interne qui peut paraître comme ça de premier abord un peu moins fun que les spectacles à aller voir, et pourtant quand on prend le temps de se pencher un peu sur ces rencontres, c'est déjà que des passionnés. Donc forcément, il y a une énergie, il y a une vitalité, et puis des échanges d'expériences qui sont très constructifs, et un axe particulièrement porteur ce matin, puisqu'il s'agit de la dimension internationale des arts de rue. Comment ça se passe dans les autres pays? Quels sont les enthousiasmes, les contraintes? Et ça discute à tout va là. C'est une discussion bien sûr qui est enregistré, dont on rediffusera des extraits.
D'accord, une sorte de conférence, réunion, forum, où finalement les acteurs du théâtre de rue, c'est-à-dire pas seulement les comédiens, mais les acteurs en général, les passeurs, ce qu'on appelle les passeurs, c'est-à-dire les chargés de diffusion, les chargés de production, les gens qui, tiennent des lieux, comme les gens du fourneau.
Les arpenteurs, ceux qui se baladent, qui font circuler. Il y a plein de termes comme ça qui disent la nécessité de chaque...
rôle
stade. Dans cette grande mécanique, et puis qui dit il n'y a pas que les artistes, les organisateurs, il y a aussi tous les activistes, ce qu'on appelle les petites mains aussi des fois, tous ceux qui filent un coup de pouce ou qui par leur curiosité, leur ouverture d'esprit font également circuler les idées, et c'est une dimension fondamentale.
Alors il y a aussi par exemple des programmateurs, des gens qui viennent d'autres festivals, etc., qui viennent faire leur marché, mais qui viennent aussi participer à ces discussions, cette forum. En gros, c'est comment se structurer pour peut-être réussir à être un peu plus visible, par exemple vis-à-vis de nos dirigeants, hein, des gens qui ont le pognon pour pouvoir en tirer le maximum.
La caillasse, le fameux cash.
Voilà, ils sont donc en train de parler ici, donc un mélange de gens de toutes sortes autour des arts de la rue. Ils sont en train de parler dans la cour de l'école dans laquelle on a installé notre petit studio qui rediffuse donc tous ces sons, toutes ces histoires autour des arts de la rue à Namur, à Rennes et à Brest. Alors aujourd'hui, on va avoir des invités. J'ai pas encore la liste précise, mais on saura ça dans pas longtemps.
De toute façon, tout le monde est là quasiment. Donc il y a plus qu'à piocher. On a une foule de passionnés et d'activistes sous la main. Là, on essaiera sûrement, en tout cas, de faire intervenir Pascal Lebrun-Cordier, qui est professeur associé à Paris Panthéon Sorbonne, et donc qui a cette étiquette un peu imposante comme ça, mais qui en fait, un mec très cool. On dirait un Jones.
Avec... Même si on comprend pas toujours tout ce qu'il dit, on lui expliquera deux trois termes.
Il a léger. il a un petit vernis France Culture qui apportera, je l'espère, une plus qualité performance à cette antenne.
Nous en sommes certains. Je vous propose d'écouter un petit morceau de musique pour commencer cette émission avant qu'on retrouve nos billes, parce que la réunion n'est pas encore tout à fait terminée et on risque de faire un peu trop de bazar. En tout cas, restez avec nous sur toutes les antennes où vous êtes calés ou bien même sur internet. Allez faire des tours sur le fourneau. Il y a sur le site du fourneau, sur internet, vous allez voir, il y a un petit endroit qui s'appelle le journal du phare. Il y a un petit endroit où on retrouve par lien superposé comment dire, par exemple le défilé de l'émission d'hier soir, où on peut aussi télécharger celle d'hier. Pardon, c'était pas hier soir, c'était hier midi, puisque cette émission c'est du midi 14h en direct. Voilà, on écoute un morceau de Rancid histoire de se réveiller ce matin. Oh, c'est parti. Wouh.
Goddamn thing, I hear them talking, I ain't listening. How many times did you tell me I was wrong? But I didn't listen to you, and I only stay strong. In a world where people don't hang on too long, I belong. Prove me wrong. I ain't worried about a goddamn thing. I hear them talking, I ain't listening. Out come the wolves in the lunar light. Fight or flight, you're wrong, I'm right. Talk to me straight, man, but be polite. You hear my scream, cause this wolf bites. I ain't worried about a goddamn thing. I hear them talking, I ain't listening. Thing. I hear them talking, I ain't listening. I take chances that most won't take, right. I get knocked down, I won't break. Get it clear and make no mistake, this town's filled with rattlesnake. Black, brown, white, we're all punk rock. We're the kings of a low income block. Blown out speakers, skinheads, mohawk. When we all get together, yeah, the music won't stop. I ain't worried about a goddamn thing. I hear them talking, I ain't listening.
Far ridere la gente.
Notre métier est de faire rire les gens.
Di farvi passare una serata allegra.
De vous faire passer une soirée légère.
Senza
pelle par le Tony Clifton Circus.
Buon divertimento, carré.
Bon amusement, carré.
E vaffanculo.
Et vive la France.
shines right out of you. So tell her, don't find yourself. Don't fold your lifeline on the shelf. And stay deep inside what's hurting you. Know your selfish acts will ruin you.
Ah, désolé, c'était un petit blanc qui vous était proposé par les plâtriers de Morlaix, mais je pense que ça va, dans la seconde qui va suivre, tout de suite s'améliorer, puisqu'on vous propose, en attendant d'avoir les invités qui sont tous en réunion, c'est un petit moment un peu particulier ici, on va vous proposer de revenir sur un bout d'histoire, je crois, c'est ça, de la rue, notamment donné par quelqu'un qui s'appelle Pierre Prévost de la compagnie Assidu, qui résume bien un petit peu tout ce petit monde.
Les arts de la rue, on a l'impression de les connaître depuis tout le temps. En fait, ça date de la naissance du théâtre, puisque le théâtre est né dans la rue, en tout cas à ciel ouvert, avec notamment les cultes en Grèce. Mais je pense qu'il existait avant, quand les chasseurs racontaient leur chasse dans la caverne ou hors de la caverne. Et puis qu'ils commençaient à le mimer, et puis qu'ils ont fait des danses derrière. Enfin, déjà, il y avait du spectacle de rue, des arts de la rue. Et puis après, c'est passé en Grèce. Et puis en Grèce, ils se sont dit, tiens, on va faire des beaux espaces pour que ces magnifiques spectacles qui nous ont tellement plu, eh bien, on puisse les célébrer encore mieux. Et ça continue comme ça. Ensuite, c'est aller dans les tavernes, dans l'Empire romain. Il y avait quand même dans les tavernes, dans les orgies, dans les espaces, dans les places publiques. Ça continuait. Au Moyen-Âge, c'était les clercs qui ont voulu commencer à haranguer le peuple en dehors des églises pour continuer leur martelage religieux. Mais aussi des petits laissés-passer, des petites idées, des trucs qu'ils ressentaient, les jours de folie, parce qu'il y avait toujours un jour de folie que même les clercs faisaient. Eh bien, dans lequel ils pouvaient faire du théâtre et critiquer ce qu'ils adoraient les 364 autres jours de l'année. Ensuite, eh bien, c'est toujours, les arts de la rue ont toujours été un peu suspects parce que c'est la prise de parole en public. Et ça a toujours été un peu dangereux, la prise de parole en public. Donc ça a été régimenté, réglé, mais il y avait quand même toujours ces espèces de troupes qui allaient porter en gagnant très mal leur croûte, mais quand même avec des répertoires qui allaient montrer des choses et qui continuaient à faire du spectacle. Nous, en ce qui nous concerne, c'est né un petit peu dans les années 60, avec notamment le Living Theatre, le Teatro Campesino, le Bread and Puppet, qui sont arrivés, qui étaient des mouvements liés aux États-Unis et qui ont commencé à se réapproprier l'espace public à partir de démarches très héritées aussi des techniques des années 1920 en Russie, avec la Révolution en 1920, avec Meyerhold, que tout le monde connaît, Tonton Meyerhold, qui avait inventé la biomécanique et notamment des jolies choses qui s'appelaient l'agitprop, où on allait faire du théâtre partout, dans les usines, dans les ateliers. Donc, en 1960 et dans les années qui ont suivi, eh bien, les Américains ont développé ce type d'intervention et ça a été, ils sont venus en France. Ça a donné des idées à d'autres qui ressentaient la même chose, l'envie de sortir dehors. Et donc, les arts de la rue ont commencé à naître, à renaître, à se refaire dans la foulée de mai 68. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était interdit de faire des spectacles dans la rue. La première chose qui s'est libérée, c'est l'esplanade Beaubourg, où on a eu le droit, les baltringues ont eu le droit de venir faire leur numéro. Puis petit à petit, eh bien, ça s'est développé. Et puis, les premiers inventeurs de notre génération, c'est-à-dire, ça fait 30 ans, eux étaient souvent des gens qui venaient de l'espace des arts plastiques ou des circassiens. Très peu d'acteurs au début, très très peu d'acteurs. Et puis, ils ont commencé donc à inventer des interventions et effectivement également liées au happening. N'oublions pas le happening, car le happening et les arts de la rue sont des cousines. Et puis petit à petit, de nouvelles troupes sont arrivées. Et puis, le théâtre, c'est le théâtre de rue, parce que ça s'appelait du théâtre de rue à l'époque, même si ça n'avait rien de théâtral, le théâtre de rue a pris donc pour recevoir l'ensemble et les autres corporations le titre ronflant d'art de la rue, histoire de bien marquer, après tout on n'est bien servi que par soi-même. Et puis des compagnies sont arrivées et maintenant il y en a de plus en plus, avec une espèce de normalisation, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent, qui sont plus faciles à faire et d'autres moins faciles à faire. Néanmoins, ça reste un art qui est très très différent, très divers, très varié, très imaginatif, toujours à refaire. Et sur lequel il y a une chose qu'il ne faut absolument pas oublier, mes petits neveux, c'est que comme l'amour, ça se fait à deux, artiste et public. Et c'est nettement mieux, même si on peut le pratiquer tout seul pour s'entraîner.
C'est quelque chose que le théâtre en salle peut oublier ?
Oui, dans le théâtre en salle, malheureusement, il y a eu des fermetures, il y a eu une vision d'excellence. Le théâtre en salle correspond simplement, on veut voir des beaux spectacles dans des bonnes conditions. Ça s'est fait au XVIIe siècle, avec les bourgeois et les nobles qui voulaient voir les pièces dans des bonnes conditions, qui ont donc fait les salles pour ça. On garde toujours cette petite ambiguïté par rapport aux salles. Et même s'il se fait des choses, moi je pense que la première salle importante dans un théâtre devait être le foyer. Or souvent le foyer est relégué en dessous, on y boit un pot en loose day, avant le spectacle, après le spectacle. Mais ça n'est pas le centre. Or le centre, c'est quand même le lieu de convivialité. Donc le fait d'avoir fait des cultes, un culte à la culture, d'avoir retrouvé cette notion religieuse de la culture, a un peu coupé le public qui ne s'y sent plus que chez lui. D'abord, vous ne pouvez pas fumer dans un théâtre, c'est quand même... alors que dans la rue, vous pouvez fumer. Et croyez-moi, pour un fumeur, c'est important de voir un spectacle en ayant la clope au bec. Voilà, donc c'est les choses. Et je pense que, les salles ont un peu perdu ça. Il manque, on essaie de faire des bonnes salles, la perfection tue finalement la création, nous savons bien, finalement dans les friches, dans les espaces improvisés, aléatoires, c'est là qu'on peut créer des choses nouvelles, surprenantes, roboratives, et c'est ce que nous faisons je crois, non ?
La perfection tue la création, pour retenir un petit peu la dernière phrase de Pierre de la compagnie Assidu qu'on a entendu hier dans cette émission Plateau à Morlaix. Pierre qui fait partie donc de cette fanfare de Saint-Fulbert.
Chorale du pays, en pays, de la communauté commune de Saint-Fulbert.
Alors justement, puisqu'on parle de, un petit peu, j'ai envie de dire, de pas de sodomisation de coléoptères, mais en tout cas de choses un peu complexes qui sont des réunions où les gens se causent entre eux, dit que j'entendais, moi, en tant que responsable d'association, je me sens impliqué dans ci, dans ça, dans quoi. Qu'est-ce que c'est que cette réunion, là, je crois que toi, tu en sors, t'as écouté une bonne partie, tu y as même participé, il y a des gens qui se causent entre eux. Parfois on comprend pas trop parce qu'on n'est pas forcément dans le milieu des arts de la rue, mais peut-être qu'on peut décoder un petit peu ça.
Alors, résumé. En fin de compte, il faut savoir qu'il y a en Bretagne une mouvance qui s'est créée il y a quelques années qui s'appelle la Fée des Baies. C'est-à-dire une fédération des arts de la rue qui est née spontanément des compagnies présentes et puis très fortement épaulées par le Fourneau, qui sont un peu les papas et les mamans des arts de la rue en Bretagne. Et donc voilà, il est né une mouvance, un mouvement, une énergie qui réunit à la fois des compagnies, des professionnels, des élus, des spectateurs, voilà, tout ça pour promouvoir les arts de la rue en Bretagne. À l'initiative aussi, enfin, je veux dire en suivant une fédération nationale des arts de la rue, hein, qui s'est créée maintenant il y a une dizaine d'années, et puis qui fait tout un travail ministériel de reconnaissance, qui s'est
du lobbying, tu veux dire, ils vont taper aux portes des ministères, voilà, de la direction culturelle de machin, de bidule,
voilà,
on veut du pognon,
on veut de la reconnaissance, on écrit, on veut une place à la SACD, on veut des bourses, on veut de l'aide à l'écriture, on veut des lieux de résidence, de création, et ça marche, puisque sont nés il y a peu de temps les CNAR, les Centres Nationaux des Arts de la Rue, qui sont 9 lieux maintenant institutionnalisés.
Dont adoubés, le Fourneau à Brest, notamment.
Dont le Fourneau à Brest, adoubé par le ministère, et patati patata. Cette FEDB, dont je suis le capitaine d'ailleurs, en Bretagne, a décidé de mener une action permanente de soutien aux Arts de la Rue en Bretagne. Et donc elles sont engagées à régulièrement faire des réunions comme celle dont on parle là, celle qui se passe juste dehors devant la radio, en appelant des artistes, des élus, des organisateurs de festivals, des acteurs culturels, et en les amenant à réfléchir autour de
et à s'exprimer aussi
et à s'exprimer. Aujourd'hui, c'est particulier parce que comme le phare a cette année une dimension très internationale, on a réuni autour de la table des Chiliens, une compagnie chilienne, des Coréens, des gens de Madagascar, des gens d'Italie, des gens de Pologne, des gens d'Allemagne, des gens d'Angleterre, et je dois en oublier encore quelques-uns. Donc on se pose la question, là le débat qui est soulevé, c'est comment est votre espace public chez vous ? Et c'est tout un questionnement autour de, effectivement, l'espace public. Est-ce que c'est un espace de circulation, un espace marchand? Est-ce qu'on y a la liberté d'expression? Comment les gens vivent dehors? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut? Est-ce que c'est compliqué chez vous ou pas?
De s'installer, par exemple, sur une place ou dans une rue pour faire un spectacle.
Voilà. Alors, c'est surprenant d'écouter les gens de nationalités différentes. Et on se rend compte qu'en fait, l'exception culturelle française, elle existe.
Alors a priori, c'est ce que j'avais aussi comme retour. Les Italiens disent chez nous, c'est super compliqué, on n'arrive pas à s'organiser, on peut pas facilement s'installer comme ça, on a du mal à organiser des événements. C'est un peu en France, on est privilégié
à ce niveau-là, certainement, même si pour nous on est toujours rogné et qu'on a envie de le prendre d'assaut, cet espace public, et il faut le prendre d'assaut, parce que il y avait plein de témoignages aussi qui montraient de gens là qui font ça depuis de nombreuses années, qui montraient que c'est parfois en transgressant que les choses se font. Un exemple juste de la compagnie Cacahuète qui il y a peu de temps est partie au Maroc là, avec justement il y avait un des animateurs là du débat qui disait que lui il y avait été quelques mois avant avec sa compagnie, ils avaient demandé des autorisations, ils les avaient pas eu. Finalement au bout du compte, passé quelques semaines, ils avaient réussi à faire une ou deux petites choses timides, et puis Cacahuète sont déboulés 3 mois plus tard, ils ont pas eu les autorisations, ils y ont été quand même, et toute la foule les suivait, et les flics pouvaient plus rien faire, et puis l'espace public s'était ouvert, et puis tout le monde a trouvé ça génial, il y a eu des articles de presse. Et ça se réitérera.
Voilà, ça c'est des avancées, notamment dans le monde du théâtre de rue, entre guillemets, quoi. C'est une percée, là, ça y est, on en voit, ils peuvent plus trop faire, ou ils sont obligés d'accepter, mais alors, pour accepter, il leur faut des interlocuteurs, voilà. Et c'est là qu'interviennent des associations comme la FEDB. C'est-à-dire que,
voilà, du coup, alors la structuration du métier, comme on l'a en France, ça c'est une exception, une réelle exception. La profession des arts de la rue s'est structurée, s'est dotée d'une fédération, elle a une interface visible, elle est audible, elle est visible, et donc du coup, maintenant il y a quelque chose qu'on a en fait des passeurs qui nous mettent en relation entre les flux monétaires dirigés vers la culture et les artistes. On n'est plus comme en Italie, il le disait tout à l'heure, l'Italien là de Tony Clifton Circus, eux les artistes, avant de toucher la moindre thune, ça paraît c'est impossible, quoi. Je veux dire, c'est très très lointain, quoi. Il y a les programmations en salle et tout, et puis après ils arrivent pas à toucher le. Alors que nous, effectivement, avec la professionnalisation, on a réussi à se doter de gens, des organisateurs de festivals, des animateurs urbains, des animateurs socioculturels qui nous aident, quoi, qui nous passent la main. Très intéressant tout à l'heure aussi, justement, un des gars qui bosse là, l'ostéopathe des arbres, qui bosse aussi avec le Royal, l'ostéopathe des arbres.
C'est quoi ça?
On lui demandera de venir en parler tout à l'heure.
Il y a plus d'argent dans ce monde-là.
Et en fait, lui, il nous parlait de ça, parce qu'on parlait aussi de l'attente du public. Alors effectivement, il y a la structuration qui fait que les choses sont peut-être plus faciles dans l'espace public, mais il y a aussi l'attente du public qui fait beaucoup de choses. Il disait en France, les gens ont un appétit d'art et ils vont facilement accepter des propositions transversales. Ils vont facilement accepter des choses plutôt contemporaines ou de l'art expérimental ou des choses comme ça. Il y a des pays où c'est plus difficile. Un programmateur en Angleterre disait aussi que lui, il a vu dans son pays changer les choses, alors qu'au début c'était très entertainment. Tout ce qui se passait, vraiment
c'était de l'animation. De
l'animation pour vendre des glaces. Mmh. Et les gens n'étaient pas forcément ouverts à recevoir des propositions étranges, dérangeantes, bousculant les tabous, des choses comme ça. Ils trouvaient ça pas forcément bienvenu. Et il dit que là, depuis quelques années, le théâtre de rue se porte très bien et de mieux en mieux, connaît une vraie effervescence. Et les gens ont cette attente et permettent juste, du coup, le public permet aussi aux artistes d'exister. Pour terminer sur notre fameux ostéopathe des arbres, qui disait que effectivement il avait vu cet engouement avec l'éléphant du Royal à Londres là, où des milliers
l'éléphant
de personnes.
L'éléphant du Royal est passé à Londres.
Ah oui, ça a été un événement gigantesque. Ouais. Quelques mois après les attentats. Donc une forte volonté politique de faire un truc comme ça, parce que c'était un rassemblement gigantesque. Et il disait, moi j'étais un des petits Playmobil là-haut sur l'éléphant en train d'avancer, et puis avec toute cette marée humaine, on avait, puis là à un moment il y a un flic devant qui était poussé par toute la foule, et le flic débordé, il est venu et il s'est mis devant l'éléphant, il a déployé ses bras et il a dit stop. Ouais. Mais le bonhomme, il était tout petit, il pouvait plus rien faire, quoi. Et l'espace public était pris, et ça montre aussi à quel point...
C'est de l'attentat culturel, un peu, mine de rien.
C'est de l'attentat culturel. Et juste pour conclure sur ce débat qui est en train de se passer, mais qu'on pourra peut-être résumer un peu plus tard, Claude Morizure, donc directeur du Phare, là, qui a fait une belle intervention aussi en s'adressant aux artistes et en leur disant, mais vous êtes trop sages.
Ah bon?
Mais allez-y. Ouvrez les portes, prenez les espaces, attentatez-nous, quoi.
D'accord.
Ce qui est donc non, mais le débat est très beau et le débat qui est en train de se passer, c'est très joli.
C'est pas que de la sodomisation de coléoptères, comme je disais, mal de manière mauvaise tout à l'heure. Hein. C'est oui. Des choses qui avancent vraiment. On a l'impression que, mais non. Hein, c'est un peu ça que tu disais aussi.
Tu disais,
il faut se bouger, il faut avancer. C'est en faisant des réunions comme ça que, de toute façon, les choses avancent dans le monde des arts de la rue. Merci, Stu.
Je t'en prie.
Hein, voilà un petit résumé, ma foi, fort convaincant. Et puis, on passe un petit morceau maintenant de musique. On va accueillir nos premiers invités qui nous viennent d'Italie. Il s'agit de Patriotico.
Du Chili, pardon.
Je confonds avec Tony Clifton Circus. Alors, Patriotico Interessante de la Independencia, de Kosovo, de Infernale.
No sé lo que le pasa a la tierra, no sé lo que le pasa a la gente, la vida se convierte en guerra, la guerra se convierte en muerte, en la muerte. No sé lo que le pasa a la tierra, no sé lo que le pasa a la gente, la vida se convierte en guerra, la guerra se convierte en muerte, en la muerte. Por golpes que he pasado, la vida me ha enseñado a seguir adelante, aunque el corazón se parte, pero lo que yo presiento bien, no sé lo que le pasa al mundo, no lo puedo entender. Trabajo más duro que la guerra misma, mineros bajo tierra que su vida entregan, niños en la calle vendiendo golosinas, pero sin estudio el mundo se te viene encima, limpiando parabrisas para estar mejor. Oye, piensa en los niños que no tienen amor, mira, entiende y toca del corazón, lo que pasa en la tierra ya no tiene perdón. No sé lo que le pasa a la tierra, no sé lo que le pasa a la gente, la vida se convierte en guerra, la guerra se convierte.
se estará acabando y nunca llegaremos a ser felices todos ayudando.
Dice así, yo. No sé lo que le pasa a la tierra, no sé lo que le pasa a la gente, la vida se convierte en guerra, la guerra se convierte en muerte, en la muerte. No sé lo que le pasa a la tierra, no sé lo que le pasa a la gente, la vida se convierte en guerra, la guerra se convierte en muerte, en la muerte.
Il est d'une puissance ce morceau.
On est rentré,
il nous a bien charmé ce morceau qu'on a entendu hier. Alors sous la pluie, c'était le déluge, il faut bien le dire. On était sur une place, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est
la place Allende.
Allende, voilà, ça tombait bien puisque Patriotico Interessante de la Libertad était là pour... Je m'amuse avec ça parce que je trouve ça tellement joli cette langue. Ils viennent du Chili, donc ils arrivent en Bretagne, ils essaient de faire un spectacle, il pleut. Et qu'est-ce qui se passe sur la scène donc de la place du Salvador Allende? Eh bien, on voit des gens qui dansent sur la musique que vous venez d'écouter. Et puis, ben peut-être que Rodrigo et Ignacio, qui font partie de cette compagnie, vont nous dire un petit peu leurs impressions.
Juste pour compléter, il faut dire que donc, le spectacle a été interrompu.
Voilà,
mais il y avait cette musique de préchauffage et que on les sentait vraiment avec l'envie d'en découdre avec
c'est
le public et de dire on est là, on a envie de jouer. Il suffit juste que cette putain de pluie s'arrête. 2 secondes, ouais. On démarre. Mais bon, c'était vraiment pas possible.
Ils ont pas pu.
Les bars commençaient à exploser, les ampoules du système d'éclairage qui commençait à lâcher. Là, c'était plus possible.
C'était plus possible. Et il y avait du son qui passait quand même entre Manon et Grasse qu'on vient d'écouter. On va leur demander ce que c'est d'ailleurs. Et puis aussi du hardcore. Donc il y avait une ambiance un peu étrange, comme ça, bizarre sous la pluie. Tout le monde en capuche. Il y a plein de monde en fait.
Ah, c'était très frustrant. Il y avait
en fait
les starting blocks prêts à envoyer.
On peut vous dire en fait, c'est vraiment bien quand vous jouez pas quoi. vous avez une super idée. Là.
Vous voulez pas faire juste DJ, c'est déjà très très bien.
Alors Ignacio, qu'est-ce que tu penses toi, de cette soirée d'hier soir du coup?
De la soirée d'hier.
Ça ouais, pas été vos sentiments au moment où
c'est super frustrant vraiment parce que on voulait jouer beaucoup hier soir, mais c'est bien l'énergie du public. Nous sommes contents de ça. Il était plein de monde et on espère qu'aujourd'hui les gens y reviennent pour voir le spectacle parce que c'est bien passé hier, mais le spectacle c'est beaucoup mieux.
Oui. Vous avez joué récemment en Bretagne là. Vous revenez d'une date. C'était aux Vieilles Charrues, non?
Oui, mais on y a commencé cette tournée à l'Espagne, à Bilbao.
D'accord.
Et après des petites villes en France, à Terrasson et Saint-Amand-des-Colis.
Mm-hmm.
Et après on y a joué trois fois au festival Vieilles Charrues à Carré.
Alors comment ça s'est passé là-bas? Parce que c'est un festival ici qui est régionalement très fort et très très important. Donc ça nous intéresserait bien, nationalement, hein, ça nous intéresserait bien de savoir qu'est-ce que vous avez ressenti là-bas.
Oui, c'est super bien passé vraiment, parce que il y a beaucoup de jeunes et c'est très intéressant parce que la jeunesse normalement elle réactionne beaucoup à les spectacles et il a été très émotionnant pour nous. La dernière représentation, c'était vraiment joli, émotionnant et c'est super intéressant parce que toujours après du spectacle, il a venu beaucoup de personnes pour parler avec nous, mm-hmm. Pour discuter de les thèmes du spectacle. Et c'est un super bon moment pour partir se tourner dans les festivals après les petites villes. Pour partir, pour venir ici, c'est un bon courage.
D'accord. Et justement, pour continuer sur ce thème-là, alors, vous parlez donc des enfants soldats.
Oui.
Et alors, est-ce que c'est un problème qui touche le Chili, ça?
Oui, mais au Chili, il n'y a pas de la guerre. Mais on parle de les enfants soldats, mais pas seulement dans les pays en guerre. Et on parle de les enfants qui jouent aussi avec les narcotrafics. Et ouais. Avec les quartiers populaires de Chili. Et ça, il y a beaucoup. Maintenant, au Chili, il y a un grand débat public pour savoir, pour chercher une solution pour ce problème, parce que avec la crise économique et voilà les marges d'erreur du système capitaliste, et il y a beaucoup de petits enfants qui prennent les armes pour aller à les quartiers plus riches. Mmh. Et c'est trop dur, ils sont super violents, mais vraiment ils sont pas les responsables, c'est la société les responsables, et tout le monde se demande maintenant au Chili qu'est-ce qu'il se peut faire, et normalement la droite il dit non, c'est nécessaire de prendre des rules plus dures. Et, mais la société, il parle de que c'est ça pas la solution.
D'accord. Donc on rappelle que c'est Ignacio de la Patriotico Interessante qui vient présenter le spectacle Cadogo, Niño Soldado, une compagnie donc chilienne. Alors hier c'était vraiment très frustrant, vous voyez, vous avez une culture assez urbaine, assez jeune, vous étiez en baggy, il y a donc des sélections un peu punk, un peu hardcore, un peu hip-hop. Le spectacle, une fois qu'il démarre, qu'est-ce que ça donne? Parce que hier on pensait le voir, et pour pouvoir en parler aujourd'hui, tout ce qu'on a pu voir hier, c'est un spectacle avec deux pôles, c'est-à-dire il y a comme une espèce de traverse avec la musique au bout. On voyait des ours aussi empalés, des ours ensanglantés, des peluches d'ours ensanglantés empalés. Et quels sont les éléments qu'on retrouve dans le spectacle? Il y a de la musique,
des ours,
images fortes, des ours.
Est-ce qu'il y a des coléoptères?
Oui, il y a de tout. Parce que l'espace public, l'espace des jouets, pardon, il y a deux pôles, comme tu as dit. Les musiciens, ils représentent les pouvoirs économiques, et de l'autre côté, jusqu'au fond, les petits enfants qui vivent dans la pauvreté, l'espace est pas propre, l'espace dur, la rue avec la violence de la rue. Vraiment, la rue au Chili, c'est différent à la rue en France. C'est très dur, c'est très dangereux. Et nous jouons dans cet espace. Mais c'est un spectacle très visuel, et la musique, c'est fondamental, c'est la base du spectacle. C'est vraiment un mélange entre le travail des comédiens, le travail des techniciens, de tous les designs, les costumes du spectacle. Et il n'y a pas beaucoup de textes. Ce sont des images très poétiques, très métaphoriques, qui parlent un peu de les acteurs qu'ils jouaient dans la problématique des enfants soldats. La santé, et les sons politiques, voilà, évidentes, et les pouvoirs économiques, et les petites enfants. Et nous faisons un prêt, les journalistes aussi. Et nous faisons un prêt, un parcours qui raconte comment les enfants, ils prennent les armes, ils prennent la violence comme une solution pour exister. Et voilà, c'est ça le thème du spectacle.
Et comment est-ce que vous en êtes arrivé ici? Par quelle suite de rencontres vous arrivez aujourd'hui ici au Phare, en Pays de Morlaix?
Parce que on y a fait une tournée en 2007, accompagné par le Fourneau. On y a fait une résidence à Brest, et pour construire un autre spectacle qui s'appelle El Jabalí, les sangliers. C'est une version pour la rue de Richard III de Shakespeare. Et c'est une super bonne expérience. Ça passait super bien. Et après, on y a continué à travailler avec, tout ensemble, avec les Fourneaux, et on a programmé cette tournée avec son accompagnement. Et voilà, c'est le festival de Fourneaux, et c'est notre, un peu, c'est bizarre, mais c'est un peu notre maison.
Puisqu'on parle de musique, moi je propose qu'on fasse une petite pause musicale avec de la musique justement du spectacle, et on va revenir juste après ça sur la musique et sa composition grâce à Rodrigo qui est ici.
Attention, acá está la solución para tu dolor. ¿Quién quiere tener poder? Acá está tu coronel. Tiende, se te cayó.
Voilà la musique du spectacle de Patriotico, la Patriotico Interessante, notamment qu'on pourra voir ce soir place Allende à Morlaix à 19h12 exactement. Et puis ben Rodrigo qui a composé cette musique est avec nous. Moi j'ai envie de dire punk rock, hardcore, hip hop,
oui. Metal.
Metal.
Et qui veut avoir le pouvoir? Yo, moi. Pas mal.
Comment tu fabriques cette musique pour le spectacle?
Bueno, el concepto de la música de Kadogo y de la obra en general es que la imagen sea universal.
Le concept de la musique de Kadogo et le spectacle en général, c'est que la musique
c'est universel.
C'est universel.
Notre première expérience en France fue con el jabalí, el sanglier. Y la música era más como autorreferente, era más como latinoamericana.
Notre première expérience ici en France avec les premiers spectacles, il est passé avec une musique plus local, plus latinoamericaine.
Lo que hacía que la gente entendiera la obra de un punto de vista siempre mirándonos como extranjeros, como exóticos.
Y ça, il a fait que les gens, ils voient le spectacle avec un peu plus de distance, comme un étranger qui parle d'une réalité un peu plus loin.
Pittoresque, un petit
peu. Oui, un peu folklorique. Ouais. La pero, samba.
Samba y todo eso. Pero ahora, después decidimos que, o sea, nuestra idea es girar por el mundo, si se puede.
Après, on a décidé qu'on veut tourner pour le monde entier.
Entonces, obviamente, lo que decidimos fue hacer un lenguaje más universal. Y eso lo logramos a través de la música, usando todos los estilos necesarios, o los estilos más populares que existen en la música popular.
Y c'est por eso que on a décidé de trabajar avec tous les styles musicales pour faire la identificación avec tout le monde.
Y también es como dar una pincelada al origen del problema de los niños soldados utilizando referentes africanos. Merci.
Merci Stu qui nous apporte une petite coupe de champagne offerte par le conseil général
merci.
De la communauté de communes de la DRAC de le pays de Lotregor en Léon, merci. En Bretagne. Merci.
Bueno, decía que también l'idée de usar variados estilos tiene que ver con unir los países que tienen la problemática de los niños soldados à travers des styles propres de ces pays.
L'idée d'utiliser beaucoup de styles, c'est d'aller à l'origine du problème et de prendre les styles de la musique africaine, latino-américaine, c'est de faire un mélange entre les différentes cultures.
Donc le concept se transforme en quelque chose de circulaire.
Donc le concept, c'est un circulaire.
Pas de musique folklorique chilienne. Bah, le Chili, c'est quoi? C'est les montagnes. Musique andine, des choses comme ça. Pas de musique andine, par exemple.
Oui, pas de musique andine. Il y a
El Condor Pasa.
Non, pas trop comme ça.
Non.
Mais toujours, il y a les référentes de la musique latino-américaine. On peut pas renéguer de notre origine. Tout le contraire, c'est de chercher vraiment un esprit plus universel, mais toujours avec les référentes de notre pays, de notre continent.
D'accord. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir libérer notre compagnie qui nous vient du Chili, eh ben qui a oui. Plein de choses à faire. On va juste redonner les rendez-vous quand même. Alors, ils n'ont pas pu jouer hier. Ils devaient jouer aux environs de 21h, mais ils sont vraiment, on vous le répète, hein, mal tombés, puisque c'était vraiment la douche. On y était. Je salue d'ailleurs, tiens, à propos, je salue le courage de Monsieur Rao, qui jusqu'au bout m'a dit non, on y va, on est parti, on a marché sous la pluie, on est allé jusqu'au bout, jusqu'à l'endroit où moi j'avais les pieds mouillés, j'avais des éponges à la place des pieds. Et Raoul disait non, on y va jusqu'au bout et on ira jusqu'au moment où Monsieur Claude Morisure dira on annule le spectacle, ce qui est arrivé. Et effectivement, on est resté jusqu'au bout, tout comme vous. Et je veux dire bravo.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est comme ça et qu'on accompagne les artistes et que les artistes disent on est là, on a envie de jouer aussi, ça charge en énergie, c'est-à-dire la frustration est moteur d'énergie. Ouais. Et vous avez décidé de jouer les deux spectacles qui restent avec l'énergie des trois. Donc c'est
patate. C'est ça l'accord qu'on y a fait avec le directeur du festival, Claude Morissou. On va jouer chaque spectacle avec l'énergie d'un spectacle et demi.
D'accord.
Et donc vous retrouverez tout l'univers baroque, donc un peu à l'image de la musique, c'est-à-dire c'est à la fois urbain, il y a effectivement un ancrage très dans leur pays, mais un traitement international, ça pète bien, c'est bien velu et violent.
Et puis il y a des choses profondes, qui sont racontées aussi. Les enfants soldats, c'est chaud quand même.
Bah oui, des images bien trash, ça va péter.
Ça va péter ce soir donc à 19h12.
Ce soir à 21h03.
Voilà, c'est ça. Et demain à 19h12. Merci Rodrigo et Ignacio d'être venus à ce micro. On écoute encore un autre morceau tiré de votre travail, puisque c'est une composition intitulée, alors il faut que je trouve, Kadogo et Pico, pour terminer cette interview.
Merci à vous et tout le monde s'invite à voir les spectacles ce soir.
La musique de Patriotico Interessante, ça y est, je crois qu'au bout de 12 fois, j'ai fini par réussir à retenir ce nom. Je ne suis pas hispanisant, si vous voulez que je vous dise. Moi, Rodrigo Ignacio était avec nous tout à l'heure, c'est Rodrigo qui a composé ce qu'on vient d'écouter. Et puis ben, on enchaîne avec des invités, il y a plein de monde hein, qui ont des choses à raconter, j'tou.
Eh bien oui, et puis notamment là, j'ai pu aller me balader à la sortie de la Réunion et trouver Hélène. Hélène qui, justement, monte un festival, alors on reste dans l'internationalisme total, puisqu'on part à Madagascar. Hélène, bonjour.
Bonjour. Donc je vous amène un petit rayon de soleil qui vient de Diego Suarez. Je représente la compagnie Zouloubé, qui est une compagnie de théâtre de rue, qui existe depuis 8 ans maintenant, et qui a organisé le premier festival des arts dans la rue à Madagascar.
Alors, à Diego Suarez ?
Oui, à Diego Suarez. C'est le festival Zengzou, qui a lieu depuis 3 ans au mois de mai.
C'est situé où à Madagascar, Diego Suarez ?
Extrême nord, capitale de la région nord de Madagascar.
D'accord.
Alors, tout à l'heure, c'était intéressant le débat parce qu'on parlait de l'espace public. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, l'espace public en France, dans les autres pays. Et puis, on se rendait compte que dans les autres pays européens, l'espace public était peut-être un petit peu moins accessible qu'en France, qu'il s'y passait moins de choses, que c'était plus un espace de transport ou un espace marchand. Et puis, t'as pris la parole, toi, pour expliquer qu'à Madagascar, en fait, c'est pas du tout pareil. Et c'est un vrai espace de vie, l'espace public.
Oui, les gens vivent dans la rue, donc on est dans un espace animé, vivant, avec sans arrêt des enfants, des familles, des gens qui travaillent, qui vivent, qui sont dehors.
Et donc ça doit être intéressant de faire du spectacle de rue là-dedans, parce que du coup, est-ce que les compagnies arrivent à se faire des cercles, ou est-ce qu'on a la même attitude du public, comment ça se passe ?
Bah, le public, il est là, tout de suite.
Il est déjà là.
Trois jours avant, ils sont déjà là.
Oui, c'est très rapide. Il y a énormément de monde, énormément d'enfants qui sont là pour voir les spectacles.
D'accord. Et alors, est-ce que vous êtes soutenu par les collectivités de là-bas, ou est-ce que c'est complètement autonome?
Non, là, on est dans des programmes culturels qui sont expérimentaux. Hein. Il y a très peu de soutien à la culture à Madagascar. Alors, ce qui fait que je suis ici aujourd'hui, c'est que ça a un rapport aussi. Notre travail, il a un rapport. Il a été soutenu par la Bretagne, en particulier le Conseil général du Finistère, qui, dans le cadre de la coopération décentralisée, a appuyé une politique culturelle à des petites compagnies malgaches, que ce soit de musique ou des arts de la rue. Donc on remercie vivement les Bretons qui sont des partenaires, en tout cas pour nous, vraiment précieux et qui nous aident beaucoup.
Est-ce que donc du coup ta compagnie malgache a eu la chance de venir ici ?
Oui, ils sont venus ici, ils sont venus faire des stages.
D'accord.
Donc dans le cadre de la formation, voilà, cette coopération culturelle a été très précieuse.
Et alors, est-ce que le département vous aide également à exporter des artistes français à Madagascar ?
Pas encore.
Pas encore ?
Non.
Mais c'est bien sûr prévu dans le programme.
Eh ben, on espère.
Bah oui.
On espère que l'échange et la rencontre va pouvoir se faire dans tous les sens.
Quand on monte un festival à Madagascar, ça veut dire qu'on imagine un certain nombre de compagnies de différentes sortes. Je sais pas, est-ce qu'il y a une thématique, par exemple, pour un festival de théâtre de rue, enfin, en tout cas celui que vous voulez monter. Par exemple, comment il s'appelle ce festival ?
Il s'appelle le festival Zengzou, qui veut dire c'est ça.
C'est ça.
Nous, on le dirait.
Alors, pardon, excuse-moi.
Nous, on le dirait Zengzou.
Zengzou.
Et ça se prononce ?
Zengzou.
Zengzou.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme proposition de théâtre de rue à Madagascar ? Des marionnettes, du visuel, du sensuel, de la jonglerie, de l'humour, du texte ?
Alors, on n'est pas du tout dans une tradition théâtrale à Madagascar. Une tradition orale, oui. Nous, notre prétexte, c'était un petit peu de garder vivante la culture orale des contes et des chansons et du kabar, qui est le discours, et de lui faire un petit peu une peau neuve, ou en tout cas de l'amener sous une autre forme au public. Pour que
dépoussiérer un peu, hein.
Voilà, c'est ça.
Enlever les toiles d'araignée.
Oui, ou mélanger un peu notre façon de proposer quelque chose au public. Et du théâtre de rue, il y en a très très peu. Par contre, bon, bah, c'est la musique, la danse, les marionnettes, c'est une forme qui commence aussi à exister. Mais voilà, on est dans quelque chose d'un peu nouveau qui va.
Donc tout est à faire.
Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à proposer.
D'où peut-être l'intérêt éventuel de faire venir des compagnies de l'extérieur. Je sais qu'il y a eu des rencontres là dernièrement, on parlait de ça hier dans cette émission, entre des gens qui viennent de Corée du Sud et des gens qui travaillent ici. C'est-à-dire qu'il y a tout un monde à apprendre, un univers à découvrir à travers
ces
rencontres.
Mais j'ai un peu menti parce que c'est pas vrai. On a reçu une troupe amateur qui est la troupe de la tournée des Abers qui est venue cette année au festival. Donc ce sont pas des artistes professionnels, par contre ils ont partagé vraiment le festival avec nous et ça a été, je crois, un grand moment, une grande expérience pour eux.
Eh bien voilà, encore un exemple de coopération internationale entre les Abers et le nord de Madagascar. En tout cas, chers auditeurs, si vous avez des vacances à prendre en mai prochain, on vous propose de prendre un billet pour Xingzhou. Et puis d'ici là, vous avez le temps de monter un petit spectacle de rue.
Voilà.
C'est gratuit, c'est un festival gratuit, tout public dans la rue.
Diego Suarez, il y a des lignes directes. Je sais pas moi, Morlaix, Diego Suarez.
Oui, par bateau.
En quelques heures seulement.
Merci Hélène.
Merci Hélène.
Donc, merci à vous.
De la troupe Zulu B. On écoute un petit morceau de musique. Et je vous rappelle quand même que Equinox, Fréquence Mutine et
Canal B, c'est souhaite.
Can be real if we make them our gloves. The doors may be closed from when not from love. I start the tire, they're straining for the shore. Your heart and soul the fire that is burning you before. Dancing on a string and a flame was in the air. From when not from love, it's how it stays there. From when not from love, from when not from love, from when not from love, that's how it stays there. From when not from love, from when not from love, from when not from love, yo, that's how it stays there. In his gun, but he points it anyway at the furious ones. Yo, the BS have gone warm and the cars have turned brown, and someone's baby's buried on the other side of town. A kiss on my cheeks, skin from the bone. I become very wise because I haven't grown. From when not from love, from when not from love, from when not from love, that's how I haven't grown. From when not from love, from when not from love, from when not from love, that's how I haven't grown. Now straight through my broken nose, I put it in your hand, the aroma of the rose. I'm skinny and I'm small, but my life is long and straight. Do way too long, baby, the wind evaporates.
Et ben voilà, c'est exactement ça. Everybody need to see this. Et tout le monde, eh bien, a regardé, a voir des belles choses dans ce festival des arts de la rue de Morlaix. Je vous rappelle qu'on a monté notre petit plateau Canal B ici même, donc à Morlaix, et qu'on est rediffusé à la fois en direct sur Canal B, bien sûr, mais aussi sur Fréquence Mutine à Brest, qu'on salue. On salue les Brestois et les Brestoises, donc. Et puis, on est aussi diffusé en direct sur la radio Equinox de Namur, si tout se passe bien.
Comment est-ce que cela est possible, d'ailleurs, Paco? Expliquez-moi, parce que des fois, on essaie d'expliquer comment on couvre un événement dans un lieu sans être directement lié à une radio. On a l'impression que, on arrive dans un lieu, un festival, il y a une radio, il y a une antenne, voilà, et que ça diffuse. Non, mais c'est plus comme ça que ça se passe.
C'est plus tout à fait comme ça que ça se passe. Nous sommes rentrés au 21e siècle, mon cher Rao, et il y a toujours des antennes en FM qui tournent, peut-être pas pour longtemps, on passera à la RNT sans doute dans une dizaine d'années, la radio numérique terrestre, mais en tout cas, il y a encore des antennes, il y a encore des postes de radio qui peuvent recevoir le son qu'on a, mais nous, maintenant, on le fait passer par les ordinateurs, par la toile, par le web. On crée un stream, ça s'appelle comme ça, un flux sonore qui est attrapable facilement avec un logiciel approprié et d'à peu près partout. Il suffit d'avoir les codes, tout simplement. On essaie de faire ça avec un bon son et roule ma poule, il n'y a plus qu'à mettre des gens qui causent bien dedans. D'ailleurs, il y en a qui viennent d'arriver, des gens sur ce plateau Canal B Fréquence Mutine Equinox. Rao, Stu, est-ce que tu peux nous les présenter, s'il te plaît?
Eh bien, ma foi, nous accueillons maintenant l'illustre famille Buratini.
Alors là, j'en ai entendu parler de celle-ci. Hein. L'illustre, déjà, rien que...
Ah bah rien que, déjà. Alors, l'illustre famille Buratini, effectivement, nos amis finistériens doivent les connaître, puisqu'ils ont travaillé beaucoup, quand même, en Bretagne. On vous a vu plus d'une fois sur nos terres, avec plusieurs créations. Et là, vous venez défendre une toute nouvelle.
Oui.
Hein? Et donc, j'ai cru entendre parler qu'il s'agissait une nouvelle fois d'une attraction foraine.
Là, ce qu'on présente dans les arts de la rue, des fois on raconte des histoires à la ville entière, donc c'est un style, quoi. On fait des histoires, on travaille pendant 6 mois, on fait une histoire éphémère qui dure 5 jours. Et quand on joue dans les festivals, on présente plutôt du forain.
D'accord.
Donc on vient rajouter à tout ce qu'on a, le Manchot, Carabosse, le Musée des Contes de Fées, ce qu'on appelle le répertoire, on vient rajouter une pièce foraine, c'est-à-dire une nouvelle baraque foraine, voilà, où on montre un oiseau en voie de disparition.
D'accord, le fameux Jabberwock, donc voilà, cette année. Alors, vous avez une esthétique justement extrêmement foraine, quoi. On a l'impression quand on voit les baraquements Buratini, entre le camion, la baraque foraine, les draps tirés, toute l'installation a vraiment une esthétique particulière.
C'est l'esthétique du 19e. Voilà,
c'est Freaks un peu, alors.
Freaks, oui, enfin, c'est pareil, c'est le 19e. Tout vient de Barnum, de la grande époque du cirque et des forains qui étaient autour, puisque autour d'un cirque, il y avait les vendeurs de Barba Papa, mais il y avait les phénomènes. On présentait, dans la famille, il y avait des gens qui présentaient, par exemple, le nain Goliath, la femme serpent, la femme araignée, l'homme tronc. Voilà. Donc nous, on reprend cette tradition, quoi. Sachant que la marionnette aussi, à l'époque, était vachement présente. Et autour du cirque et dans les foires, et que nous on est montreurs de marionnettes de père en fils là.
D'accord. Une jauge limitée sur Jabberwock alors.
Oui, là on a voulu que ça reste intimiste. Voilà, donc c'est d'abord pour pas faire peur à l'oiseau.
Ah bah oui.
Et puis on a préféré jouer plusieurs fois dans la journée, c'est-à-dire plusieurs fois 120 personnes quoi. Le faire 4-5 fois, pas très long. C'est pas la peine de garder les gens trop longtemps. Ouais. Si on veut, puis après l'oiseau il s'énerve quoi. On sent qu'au delà de 20 minutes il y a voilà.
D'accord, parce que bon ouais, il faut bien le préciser pour nos éditeurs, il s'agit de l'exhibition foraine d'un volatile géant. Hein, donc on ne sait pas encore grand chose parce que on a malheureusement pas encore pu venir voir la bête, mais on voit bien en voyant l'installation là, il y a marqué volatile géant. Captivity, il y a un petit truc en anglais aussi là.
Oui, c'est des fois on sait jamais, il peut y avoir
si
des
jamais
Anglais.
Si jamais il y a des visitent. Anglais, quoi. Ouais, hein, voilà, ouais. Et vous exportez à l'étranger ou pas? Parce que là, on est carrément en plein festival transnational.
Non, pas du tout. On a, comme on parle que français, sur nos petites fiches, il y a marqué No Speak Roast Beef.
Ah ouais, d'accord.
Partout, donc voilà.
Donc ça bouge pas. Enfin bon, il y a quand même moyen d'aller au Québec, en Suisse ou à côté.
Ouais, avec le matériel, ça, c'est très lourd.
Ouais, d'accord.
Puis il faut avoir envie de voyager, quoi.
C'est pas trop votre cas.
Non, pas vraiment.
L'avion roulotte, c'est pas... Non.
Non plus, non. Ce qui est bien, c'est de partir d'un endroit et puis d'aller faire le spectacle, revenir...
Dormir à l'hôtel.
Si c'est un hôtel, c'est mieux que... oui.
Alors,
c'est un hôtel qu'on a choisi, c'est encore mieux. Si c'est un hôtel qu'une municipalité a choisi, effectivement, ça baisse une étoile, un de deux.
Ouais.
Si c'est un hôtel que les organisateurs d'un festival marginal de Bretagne, etc., ça donne le camp, le truc près du camping.
Uh-huh.
Donc peut-être qu'il vaut mieux rentrer le soir chez soi.
Donc,
je me rappelle de, il y a beaucoup de, d'anecdotes, de légendes un peu qui circulent sur la famille Burattini, puisque vous amusez Carrément. Aussi pas mal beaucoup à brouiller les lignes entre l'histoire, la réalité, la fiction.
Non, on se sert de notre, des histoires qui sont arrivées à la famille pour en faire, pour le raconter au théâtre.
Des histoires vraies, évidemment.
Oui, oui, les histoires que nous on a, les vécues, l'immigration, toutes ces choses-là, on l'a vécu, voilà.
Il y a un ancrage historique et après il y a quand même une dimension
Que c'est
avec du jouer avec l'image et avec, avec l'imaginaire.
Si je racontais simplement par exemple la Shoah pour certains d'entre nous ou je sais pas le fascisme italien etc, ça intéresserait personne. Il y a des livres d'histoire pour ça. Mmh. À partir du moment où on fait du théâtre, on rend la chose onirique
et romanesque.
Oui, parce qu'on l'écrit, et puis qu'il y a une manière de faire passer au théâtre des choses devant des spectateurs, que la simple anecdote de bistrot qu'on raconterait à quelqu'un autour d'une table, ça peut être plus brut de décoffrage, enfin plus réaliste. On n'est pas là pour se dégueuler, ou et on est là pour donner des émotions et peut-être en tirer une leçon, ou en faire tirer une leçon, ou exciter l'imaginaire du spectateur. Donc c'est pour ça qu'on mélange. Voilà. C'était un simple. Je vous ai coupé. C'était un simple récapitulatif.
Non, mais c'était tellement intéressant.
On fabule pas. Bah oui, c'est une radio locale.
Alors, est-ce que
on peut y aller
multilocal, on va dire.
Du coup, je sais pas si tu te rappelles, je trouve on avait entendu parler de cette histoire qui avait circulé dans la compagnie parce qu'on disait waouh, une histoire de défraiement qui avait été de défraiement ouais. qui correspondait pas au kilométrage correspondant entre deux villes et du coup, l'illustre famille Burattini avait utilisé ce défraiement et s'était arrêté, avait joué
au bout du défraiement.
Ouais. Au bout du défraiement, c'est-à-dire sans arriver jusqu'au point.
Ouais, parce que toute la discussion avec le gars qui nous voulait était sur le défraiement. Donc on a pensé que l'artistique était moins important peut-être. Donc on s'est arrêté effectivement quand on a calculé qu'il nous avait donné, je sais pas à l'époque, c'était 2000 balles, c'était en francs quoi. 2000 balles, on s'est arrêté, on a calculé, au bout de 2000 balles, on s'est arrêté, on a joué là. Voilà. Ou des fois, par exemple, on est logé, comme je disais tout à l'heure, dans des endroits où... sous prétexte d'économie pour faire passer 10 compagnies supplémentaires, puisque ce qui est bien, c'est qu'en fait, on apprend aux spectateurs de rue à zapper, c'est-à-dire à 14h13, il a un spectacle, à 14h29, il en a un autre qui commence, et puis etc. Donc il y a une espèce de surenchère, comme si dans un festival de livres, on demandait aux gens de lire 10 romans dans la journée, hein, pourquoi pas, ou alors au festival de films, d'aller se taper 10 films les uns après les autres. Or, à chaque fois, ce sont quand même des œuvres, c'est-à-dire qu'on peut pas regarder deux spectacles dans une même journée. Enfin, j'ai l'impression quoi. On peut pas
s'intéresser. On n'y est pas arrivé, nous, hier, en tout cas. On a essayé.
Je veux dire, par là, on peut le faire dans deux spectacles, mais il y a un moment, il y a une telle boulimie, etc., que les mecs, ils mégotent et sur l'hôtel, on ne demande pas les trois étoiles, un hôtel propre, simple et tout, c'est bien, et sur la douche. Alors, quand il n'y a pas de douche, je me renseigne où habite le maire, et le lendemain matin, à 7h30, je sonne à sa porte et je me dis.
Pour aller prendre une douche avec ton sac.
Directement, je vais prendre, pas avec mon sac, avec ma serviette et mon gant, mon savon, et je vais prendre ma douche chez lui. Généralement, le truc est rectifié le soir.
Ouais.
Ouais. On est bien logé le soir après.
Ça,
le mec, il veut plus nous revoir. Je dis que les autres vont arriver. Pas tarder à arriver. Ça crée une polémique et j'y vais. Il y a un moment aussi, c'est ça. C'est pas une. C'est ça, par exemple, je peux pas le mettre en scène. Mais il y a un moment, c'est ce rapport avec. Avec les gens qui achètent nos spectacles, les gens qui les voient, etc. Quand je jouais le Manchot, où je raconte l'exploitation de l'homme par l'homme, le Manchot fait la quête à la fin, on laisse les gens dans le doute, et effectivement, ils sont obligés de passer devant lui et de lui donner. Il y a un type qui lui a foutu un grand coup de poing dans la gueule.
Non.
Quelle devait être l'attitude, puisque c'est du théâtre. Nous, on a considéré à la seconde près que le spectateur qui avait fait ça avait bien compris qu'il était dans un théâtre, mais il avait dépassé, donc on lui a foutu sur la gueule aussi. Voilà. Alors l'organisateur est venu en disant « Vous n'êtes pas là pour taper les spectateurs ». On a dit « On est là pour les faire rêver ». Mais à partir du moment où un spectateur transgresse, quelle doit être l'attitude? Est-ce que je dois avoir l'attitude de Saint-Nicolas avec l'auréole, lui proposer un autre manchot à frapper plus tard? Ou est-ce que en faisant cette attitude, en disant si tu touches un artiste, tu vois, les artistes aussi y répondent, et puis peut-être qu'un jour il respectera les autres artistes, ou en tout cas il fera attention. Vous voyez, s'il s'était pris un poids lourd en traversant la rue, il aurait fait attention une deuxième fois. Là je pense avec ce qu'il a pris, il a dû faire attention. parce que j'ai pensé que d'autres artistes allaient le rencontrer aussi. Vous voyez, là, on entend parler d'espace public, la rue, l'espace libre, etc. Bah, dans la rue, il y a des cons. Et puis l'artiste, il est face aux cons, face aux gens bien, face aux... Voilà. Et il faut qu'il réagisse. Et comment on réagit? Si ce n'est qu'individuellement. Il n'y a pas un statut d'artiste qui dit « ton comportement doit être ceci ». Il n'y a pas une table de la loi de l'artiste. Justement, l'artiste, il sent le truc, il fait comme il sent sur le moment, quoi. Voilà. C'est des attitudes. Donc, les défraiements, c'était ça. Comme quand on avait été à Aurillac, par exemple, et Michel Crespin nous avait dit à l'époque... Si tu vas voir, il y a 50 000 spectateurs, c'est formidable et tout. Si tu joues ton spectacle là, là, tout le monde va te l'acheter après. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait jouer pour qu'en fait, personne ne nous le rachète? Et on a imaginé l'incendie, les forains qui viennent avec une magnifique baraque foraine, qui présente un spectacle vachement bien. Puis au fur et à mesure, ils s'énervent contre le public, qui regarde plus, qui écoute plus, etc. Puis ils foutent le feu à tout, puis ils se barrent. Évidemment, ça a choqué, mais c'était toujours en réponse. On a toujours cherché, nous... en fonction des rencontres, à inventer. On n'a pas fait d'abord du théâtre pour les textes, puisque les arts de la rue ne font pas du théâtre pour les textes. Les gens de la rue racontent leurs propres émotions. Ça sort d'eux. C'est du populaire parce que c'est des fils d'ouvriers qui font du spectacle pour la population. Ça, on ne va pas chercher dans les classiques. Oui, parce que dans les classiques, c'est riche. On pourrait très bien aller parler de tout dans les classiques. L'humiliation, l'évolution, enfin voilà. L'artiste de rue, entre guillemets, de théâtre de rue, va chercher en lui et il met en forme.
Et c'est intéressant justement ce côté qui dépasse simplement la représentation en elle-même. Et on voit bien que, tout à l'heure dans le débat, ça en parlait pas mal aussi, que les arts de la rue ont une vocation un peu à dépasser ce rapport tout simple du spectacle qui commence à telle heure, qui termine à telle heure, et qui a un avant, un après. Alors il y a des gens qui transgressent un peu les formes, on voit, avec des spectacles un peu de traviole ou étonnants. Et puis il y a aussi... La mise en scène de l'artiste dans la rue qui déjà en soi est un étonnement pour le public, parce que déjà cette baraque foraine, ces gens qui s'installent là, qu'on regarde, on se dit tiens, mais comment est-ce qu'ils vivent, tiens ce mec là il... ouais, mais c'est bon, du coup rien qu'en étant et en vivant, et comme vous vous mettez vraiment en scène dans votre installation, est-ce que vous avez l'impression d'être déjà en représentation au montage?
Oui, un camion arrive, soit c'est un camion budget de location, donc ça gêne pas beaucoup, soit c'est un camion qui a une couleur qui est pas habituelle, comme les couleurs de cirque, sur lequel il y a des lettres peintes où il y a marqué l'illustre famille Burattini, avec théâtre de rue, etc. C'est déjà un peu, entre guillemets, encore pour moi le 19e, quoi, l'esthétique du 19e qui arrive en ville et qui installe la fête par une installation. Parce qu'on peut être aussi un artiste, comme je vois des troupes, des compagnies, 5 minutes avant sur la place Carrière, ils arrivent, il y a une magie qui s'installe, et une fois que c'est fini, il n'y a plus rien. Le fait que le forain, il arrive, lui, c'est déjà comme un chapiteau, ça fait toujours rêver un chapiteau. Moi, je vois un chapiteau quelque part, avec 3 lampes foraines, déjà je plane. Ça me, comme des mecs vont au concert, par exemple. Ils voient une installation avec un, tu sais, les grands trucs là, qui tiennent les baffes de chaque côté et tout ça, les lights et tout ça. Déjà, le mec, il sait qu'il va faire la fête, il va écouter de la musique rock'n'roll et tout. Il y a un, voilà, on rêve sur une esthétique. Et chaque art a son esthétique.
Jabberwock, est-ce qu'on peut rappeler un peu aux auditeurs morlésiens là qui nous écoutent actuellement
à quelle heure
on va pouvoir y aller?
Monsieur Burattini là,
aujourd'hui ça joue à 19h, jeudi ça joue à 19h33, 20h33, 22h32 et 23h33, donc 4 séances. Une billetterie certes gratuite, mais à venir retirer en avant parce que la jauge est limitée.
C'est un oiseau géant en voie de disparition. Donc profitez de venir le voir avant qu'il n'y en ait plus, quoi.
D'accord, et puis n'hésitez pas aussi à aller voir à l'occasion les autres spectacles du répertoire, donc qui est en train de s'étoffer au fur et à mesure que les années passent, avec prestige et panache du côté de la famille Burattini.
J'ai envie de poser une question à Monsieur Burattini sur notamment la réunion qui a eu lieu. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, de ces structurations compagnies avec les programmateurs, avec les...
Non mais moi je trouve ça très bien. Dès qu'il y a débat, je trouve ça très bien. Dès qu'il y a parole libre, après les visions, elles sont totalement dingues. Moi je suis communiste, donc depuis l'âge de 17 ans, c'est la gauche qui a fait les arts de la rue. C'est la gauche, c'est le Parti communiste, faut le rappeler, qui avait 23% des voix, qui a fabriqué un jour un petit socialiste. Hein, ça n'existait pas avant. L'idée en existait, mais...
Ah, mais tout ça, voilà. Ça disparaît, je sais pas si t'as remarqué.
Oui, ça disparaît, mais je veux dire, il a fallu que ça... Là, ça a disparu, mais c'est ça qu'a fabriqué. Et puis, c'est ça qu'a fabriqué les arts de la rue. Or, là, on a une compagnie qui vient de Tchéquie, maintenant on dit plus Tchécoslovaquie, qui vient de Tchéquie, qui en fait, eux, ont subi le joug communiste, qui doit certainement pas être le même que les gens que moi je connais dans les fêtes de l'unité et tout ça, et qui justement, en faisant éclater ce joug communiste, d'un seul coup ont des trucs à dire. Alors, où sont-ils eux ? Sont-ils des artistes de droite ? Je veux dire, c'est ambigu, on peut pas dire. Donc, quand tu vois que dans le même débat, il y a quelqu'un qui, nous, on vient du communisme, on a instauré l'état de fête, entre guillemets, la fête permanente en France, etc., avec plein de gens, etc., et que c'est le contraire, autour de ce débat, il y a des gens qui viennent de tellement d'endroits différents qu'à partir du moment où tu parles avec les mêmes mots, automatiquement, tu dis pas la même chose. Tu vois, je veux dire, par exemple, là, on entend que l'artiste perdrait son intégrité quand il est payé. Alors, tout le monde en France pourrait se faire payer, sauf les artistes, quoi. Hein, le boulanger, il fait payer son pain. Oh, t'as pas de cœur à faire ton pain puisque tu le fais payer. Ben non, le mec, il dit, moi, je vais me faire du pain, mais quand je le vends, je le fais payer. Le cordonnier, il a pas de cœur à faire les godasses. Pour qu'il prouve que c'est un vrai cordonnier d'art, faudrait qu'il fasse les godasses gratuites. Là, moi, je pige pas. Hein. Non, tu vois, c'est une question d'individu, voilà, c'est tout. Mmh. Et c'est formidable qu'il y ait autant de gens réunis, etc. Et quand même, la Bretagne est un... Il s'est passé quelque chose avec ces gens, Michel, Claude, le Fourneau, Morlaix, tout ça. Il s'est passé quelque chose. Ça a été un territoire qui a été conquis et qui est bien en place, entre guillemets, avec une population. On peut pas dire pareil de tous les autres endroits, bizarrement. Là, il y avait Chantal Lamarre du Nord-Pas-de-Calais. C'est aussi une culture ouvrière. Et cette culture ouvrière, elle a besoin de ça aussi. Et ils ont repris les mines, etc. Ils ont fait quelque chose, un vrai territoire de jeu, etc. Souvent, ça a été expérimenté. Ça n'a pas toujours été gagné. Voilà. Moi, je trouve qu'en Bretagne, c'était gagné. Pour l'instant, voilà.
Vous avez travaillé beaucoup à la Bourboule.
Nous, on habite la Bourboule.
Vous habitez la Bourboule et puis voilà, vous avez créé des événements annuels là-bas.
On a fait 14 ans de festival.
Vous avez réussi à créer un territoire ?
Non, on n'a pas cherché.
Non ?
Non, on fait des fêtes un peu folles dans des villages avec des gens, des parcours avec des humains, voilà. Ça le fait, ça marche. Au bout de 3 ans, de toute manière, t'as plus envie de voir la gueule du mec en face, etc. T'as compris que c'est l'élu là, il allait te faire chier, commence à te demander. Oui, mais moi j'ai vu un truc en vacances. Oh, ça va faire tes vacances, fais pas chier. Je suis programmateur, tu vois. C'est comme quand je vais à la DRAC, il y a des experts. Le seul expert parmi les 19 personnes autour de la table, c'est moi. C'est pas de la prétention, c'est que ça fait 40 ans que je fais du théâtre de rue, je connais toutes les compagnies, j'aime vraiment le théâtre de rue, je pense qu'à ça. C'est pas un gugus qui arrive au bout de 2 fois qui va devenir expert. Tu vois, je veux dire, c'est ça, c'est la réalité. Après, c'est ma vision, tu comprends.
Mais c'est pour ça qu'il faut que tu ailles aux réunions, justement.
Non, aux réunions, tu sais, moi je suis.
Faut que tu ouvres ta gueule dans ces endroits-là.
Mais non, moi j'ai pas le temps de me constituer une opinion d'homme. C'est vachement dur d'avoir une opinion, une réelle opinion, tu comprends? Moi, je sais pas, tout le monde, il est beau. Tu vois, je commence la conversation en disant, de toute manière, moi, les 3/4 des mecs, des arts de la rue, je les aime pas et je partirai pas en vacances avec eux. Donc déjà, tu vois, c'est pas le propos, puisque là, d'un seul coup, tout est fait pour fédérer. Tu comprends ce que je veux dire? Tout est fait pour fédérer, pour ceci, pour cela, etc. Donc en fait, voilà, c'est... Moi, je crois qu'il faut très longtemps pour se faire une opinion d'homme, très longtemps pour avoir un recul sur son spectacle. Le spectacle qu'on vient de présenter là, avec le Jabberwock, on a eu la chance de trouver cet oiseau. Je le présente avec ma mère, c'est pas pour rien. C'est parce que ma mère a peut-être plus d'expérience que moi, etc., dans le théâtre forain. Mais d'un seul coup, je le connais pas, ce spectacle. On vient juste de le finir. On vient juste de le mettre. Et il me faudra peut-être 2 ans, 3 ans avant de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. J'ai bien une intention, mais elle est vague. Voilà. Donc voilà.
Et ben voilà.
Voilà, bah écoutez, moi j'ai envie de dire l'illustre famille Burattini, hein, elle porte bien son nom. Je comprends mieux maintenant pourquoi il y a ces.
Par rapport à l'artistique, excuse-moi, c'est par rapport à notre grand-père qui s'appelle Ettore Croce, qui est le fondateur du Parti Socialiste Italien.
D'accord.
Qui venait du Parti Communiste et qui a fondé les Socialistes Italiens.
D'accord.
Voilà, c'est pour ça qu'on s'est appelé l'illustre famille. Et comme on circulait en Italie, on voulait marquer ce qu'on faisait. Et on a marqué Burattini. Burattini, ça veut dire marionnette. C'est comme si on avait marqué l'illustre famille par rapport au grand-père.
D'accord.
Cirque. Et quand on est revenu en France, les gens nous ont appelés les Burattini. Alors on n'a rien dit.
C'est très bien comme ça.
Ça sonne.
Voilà, tu vois, c'était.
Ça sonne. Ça se retient.
Alors une rencontre à ne pas manquer au Phare à Morlaix, camarades de Rennais, camarades de Brestois, rejoignez-nous.
Travailleurs et
travailleuses. Et ne les frappez pas,
sinon ils vont vous foutre
poids
sur la gueule.
Voilà.
Merci à vous.
Beaucoup.
Au revoir et merci.
À vous, au revoir.
Mmh.
Noro Morales sur l'antenne de Canal B, de Fréquence Mutine et de Equinox. Je vais finir par y arriver à me rappeler de toutes les radios qui reprennent ce flux que l'on crée depuis Morlaix, puisque nous sommes avec un petit plateau Canal B ici installé donc à Morlaix dans le cadre du Festival des Arts de la Rue, et on accueille des invités. Allez, vas-y, on enquille, on enchaîne. Qui c'est cette fois-ci, monsieur Chetou?
Eh bien, cette fois-ci, nous avons Pascal Lebrun-Cordier. Pascal, bonjour.
Bonjour.
Alors Pascal, tu étais tout à l'heure l'animateur du débat de ce matin, hein, donc tu es vraiment la personne idéale pour nous résumer un petit peu ce qui s'est dit. C'était un débat animé, passionnant, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure.
Ouais.
Est-ce que tu voudrais bien te plier à l'exercice traditionnel de l'auto-présentation pour commencer?
Alors, j'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 17 ans, à Morlaix.
Gast.
Et voilà, ensuite je suis parti à Bordeaux, à Paris, où je vis actuellement. Je suis professeur associé à la Sorbonne, où je dirige un master que j'ai créé sur les projets culturels dans l'espace public. Voilà, j'enseigne là-bas les politiques culturelles, l'art dans l'espace public.
Tu es donc un expert de ce qui se passe dans l'espace public.
Peut-être, oui.
Est-ce qu'on parlait de ça tout à l'heure avec Burattini?
Oui, en tout cas je suis un observateur, je vais voir beaucoup de spectacles un peu partout en France et ailleurs. Là j'étais en Autriche à la Strada, un grand festival de théâtre et de marionnettes de rue. Je suis la création dans l'espace public, ça m'intéresse beaucoup, les arts de la rue, mais aussi d'ailleurs les arts plastiques dans l'espace public. Voilà, je suis aussi impliqué dans une compagnie, parce que je suis président du FUN, hein, la compagnie de théâtre de rue Le FUN, à Tournefeuille, et puis président de la Commission nationale des aides à la création pour les arts de la rue au ministère de la Culture.
Passionnant, voilà. Passionnant. Donc voilà le regard de quelqu'un qui connaît bien
étudie
cette profession,
le truc, quoi. Hein et puis étudie
et qui enseigne le truc, comme on dit.
T'essaies d'analyser des démarches, des courants, des mouvances, des réactions, des évolutions.
Oui, voilà, c'est ça. Essayer de comprendre un peu comment ça se crée avec l'espace public, dans l'espace public, les projets de territoire, la manière dont ces projets s'emparent du réel, le détournent, le transforment, le perturbent, le poétisent. Voilà, faire effectivement l'analyse de ces démarches, de ces approches, et puis former aussi des étudiants qui vont accompagner les artistes, les opérateurs, les passeurs comme Claude et Michel ici au Fourneau, pour donner à ces projets toute la visibilité souhaitable, toute l'ampleur qu'ils méritent, leur donner le plus de résonance possible. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est comment l'espace public devient un espace d'expression, un espace de débat, un espace vivant. Comment rendre l'espace public, encore plus sensible, encore plus poétique et politique. Voilà, c'est ça qui me...
D'accord. Alors justement, on va rejoindre ce autour de quoi on aimerait bien te questionner, c'est-à-dire le débat de ce matin qui parlait des espaces publics, le rapport qu'on a à l'espace public. On a réuni tout à l'heure sur les illustres gradins du Fourneau toutes sortes de compagnies internationales, aussi bien des Chiliens que des Allemands, que des Anglais, que des... on a vu Madagascar, la Corée. Donc voilà, et on a fait un petit tour de table et beaucoup de questions se sont soulevées autour des espaces publics au niveau international. Est-ce que tu peux essayer, c'est un difficile exercice, mais de nous synthétiser ce qui a été dit tout à l'heure?
Bah, il est là pour ça, il a pris des notes, je suis sûr.
Impossible, évidemment.
Au revoir.
Voilà, au revoir. Non, on a entendu beaucoup de choses, des paroles très fortes, hein, dans des contextes politiques très différents. Ce qui est certain, c'est que voilà, ici en France, on a sans doute beaucoup de chance. On est dans un pays qui, depuis très longtemps, finalement, soutient les arts de la rue.
Comment on explique ça?
Écoute, je pense que il y a sans doute deux choses. Il y a des individus, à un moment donné, des gens qui sont engagés. Voilà, Michel Crespin, dans les années 70, 80, qui a contribué à structurer tout ce secteur en France.
Qui est directeur d'Aurillac, c'est ça?
Il a fondé Aurillac en 86, il a fondé Lieux Publics, il a développé un certain nombre d'institutions. Il a contribué à la structuration du secteur. Et puis, Claude Morizur, Michel Bosseur, ici, et puis dans toutes les régions en France, on a effectivement des acteurs, des militants qui sont investis. Donc il y a une histoire d'individus. Et puis il y a sans doute aussi un contexte politique plus large. On soutient la culture depuis très longtemps en France. Ça a commencé avec la Révolution française, finalement, Condorcet, qui nous explique que la liberté présuppose la culture et l'éducation. C'est un signe fort, hein, qui veut dire finalement que pour les républicains, pour les révolutionnaires, la culture est un outil philosophique et politique.
Ça vient des Rouges, comme nous disait Burattini tout à l'heure.
Et puis ça a continué dans les années du Front populaire, ensuite après guerre, la libération, dans la Constitution de la 4ème République, on nous dit que l'État doit favoriser la formation professionnelle, l'éducation et la culture. C'est important, c'est dans le texte de la Constitution. Et puis il y a eu Malraux, il y a eu Jack Lang, il y a eu toute une série de, voilà, de politiques culturelles qui se sont mises en place au niveau de l'État et des collectivités territoriales. Ça veut dire qu'il y a donc des valeurs, des institutions, une philosophie finalement, une certaine conception de la culture. Donc on a beaucoup de chance parce qu'à la fois il y a eu ces militants pionniers et puis ce contexte, disons, idéologique qui est favorable à la culture, à une certaine idée de la culture comme service public. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Ce qui a été dit ce matin, ce qui était fort, c'était voilà, d'entendre que dans certains pays, il a fallu se battre, il a fallu lutter, qu'il n'y a pas de soutien économique, qu'il n'y a pas d'intermittence, qu'il n'y a pas forcément de relais, que c'est le privé qui s'occupe de ça. Et quand c'est le privé, c'est peut-être plus facilement le divertissement, c'est peut-être plus facilement des formes, disons, qui glissent, hein, au lieu d'agripper, de mordre. Donc on a entendu ça ce matin, des contextes politiques, culturels très différents, des manières de concevoir l'espace public variables. Et voilà, c'était assez intéressant, je pense, assez riche d'avoir aussi le retour de certains, comme les Chiliens, qu'on a entendu sur nous. C'est-à-dire comment aujourd'hui, finalement, peut-être les choses se sont un peu, comment dire, se sont un peu embourgeoisées. Peut-être il y a moins d'urgence et de nécessité. C'est peut-être plus difficile de, voilà, désenrager, voilà. Alors, c'était intéressant dans les deux sens, je pense, de découvrir l'espace public ailleurs et d'avoir le regard de tous ces artistes venus d'un peu partout dans le monde sur ce qu'on fait en France.
C'est vrai que on a eu ce contexte qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, donc à cette liberté dont ont témoigné les participants des autres pays, qui disaient d'ailleurs que ça allait même jusqu'à la capacité de réceptivité du public et sa capacité effectivement à accepter d'être ému ou bouleversé ou non, alors que dans certains pays c'est pas forcément évident. Par contre, sur ce débat, plus précisément, effectivement, de l'embourgeoisement ou voilà, de l'institutionnalisation, il nous a dit bon, effectivement, vous commencez à vous structurer, ça vous permet de mieux vous développer, mais bon, est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre justement la nécessité? Est-ce qu'il ne faudrait pas que ça surgisse de vous? Il y a eu une intervention qui a dit aussi, mais enfin bon, après tout, on n'a jamais eu autant de théâtre de rue, on n'a jamais eu autant d'argent, ça se bouscule. Heureusement qu'il y a un marché, heureusement qu'il y a des festivals, heureusement qu'il y a des petites formes qui durent juste une heure et qui sont juste du divertissement, heureusement que tout cela existe.
Je crois qu'il faut défendre la diversité, je suis bien d'accord. Il faut défendre les formes festives, l'animation, moi je trouve ça bien. L'animation, c'est donner une âme, et puis donner à des projets plus mordants, encore une fois, plus grinçants, plus politiques, leur place aussi. Il faut donner effectivement une place pour tout, pour toutes les formes. Je pense qu'il y a une question d'équilibre, voilà, et que c'est plutôt bien comme ça. On a besoin des passeurs, on a besoin de travailler avec les élus et pas contre eux. On a besoin d'eux pour qu'ils ouvrent la ville, comme ça a été dit, qu'ils donnent les clés de la ville, comme ça se passe ici à Morlaix. Et puis on a aussi besoin d'artistes qui sortent dans la rue, qui interviennent sans forcément avoir d'autorisation, qui voilà, envisagent des manières d'investir l'espace public, de poser des questions politiques dans la ville librement. Ça me semble aussi important.
Je crois que Claude avait justement des réactions, a eu une réaction pendant cette réunion. Il est au micro avec nous, Claude Morizur, donc du Fourneau, un des acteurs, un des organisateurs de ces réunions, justement, Claude Morizur, qui disait mais finalement, vous nous tenez pas encore assez, les artistes. Allez-y, prenez des risques. On vous suivra de toute façon. Vous inquiétez pas. Il y a quelque chose comme ça.
Ouais, c'est bien notre rôle de participer à l'émulation. Ce qu'on constate, c'est effectivement si nous on doit simplement répondre oui ou non, peut-on utiliser l'espace public pour proposer une forme, faire la manche. Ça nous intéresse pas. C'est par contre, on a parlé ce matin d'esthétique, d'autres esthétiques, et il y a quelques projets ici où il n'y a pas de convocation de public, il n'y a pas de rendez-vous. Bon, le projet des réseaux qui joue avec la ville, donc derrière la vitre, de Lily Jenks, à qui on a donné une carte blanche. À cette heure-ci, ni Michel, ni moi, ni personne ne sait ce qu'elle. On a quelques échos et on aura le fruit de son travail demain dans une projection publique sur la place publique à 22h32. Voilà, c'est dans ce sens-là. Étonnez-nous, soyez encore plus.
Mais ils le font, le public le fait. Pensez au plan Freeze et des choses comme ça. Comment ça se situe là? Parce que là, il y a deux des gens qui investissent l'espace public à travers du multimédia. Maintenant, c'est nouveau. Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense que c'est effectivement plutôt réjouissant de voir que des citoyens s'emparent sans forcément être artistes.
Voilà. Voilà. Ils théâtralisent,
théâtralisent l'espace public. Il y a des flash mobs, des freeze mobs qui sont apparus depuis 5-6 ans un peu partout dans le monde.
Un petit rappel sur le principe du flash
mob. Oui, alors le flash mob, ça veut dire mobilisation éclair, flash mob. Hein, et l'idée, c'est qu'à un moment donné, un groupe de personnes interviennent furtivement, ponctuellement, pendant 2 ou 3 minutes, dans l'espace public pour faire une action absurde, décalée, dadaïste. Donc, perturber l'ordre ordinaire de la ville, la trame urbaine quotidienne, avec une action étrange, décalée, loufoque. Par exemple, tout le monde lève le doigt en direction d'une horloge dans une grande gare, ou bien tout le monde s'allonge sous la pyramide du Louvre, ou bien, voilà, on crée finalement de la perturbation poétique. On crée une zone d'autonomie temporaire. Ça, c'est un concept très intéressant, la TAZ, ou la ZAT, zone d'autonomie temporaire, développée par un théoricien libertaire qui s'appelle Hakim Bey. C'est-à-dire qu'on crée à un moment donné, effectivement, un moment hors du temps, hors de l'espace, disons, normé, et pour surprendre, pour réveiller peut-être les consciences, voilà, aussi avec un certain sens de l'absurde et beaucoup d'humour. La freeze mob, c'est une déclinaison du flash mob, hein, c'est que les gens s'immobilisent pendant 3 minutes dans l'espace public, plusieurs dizaines de personnes dans un lieu de flux, un lieu de mobilité. D'un seul coup, on arrête quelque chose du système, quoi. Le système s'arrête, s'immobilise. Donc on crée là encore du décalage, de la surprise, et ensuite c'est médiatisé par les réseaux sociaux, YouTube, Dailymotion. On fait des films et on développe, on diffuse, pardon, ces images, ces nouvelles images, ces nouvelles écritures. Donc pour moi, ça participe d'une certaine façon, oui.
Aux arts de la rue.
D'une certaine façon, même si ce ne sont pas forcément des projets artistiques au départ, ce sont des projets qui, en tout cas, décale l'espace public, le déplace, le transforme, le déterritorialise, et c'est plutôt réjouissant. C'est plutôt réjouissant. La question, c'est peut-être comment la porosité se fait entre les festivals des arts de la rue, le réseau des arts de la rue, et puis ces formes, disons, périphériques, insaisissables, éphémères, libertaires. Est-ce qu'on peut organiser une circulation? Alors, ça se fait. Il y a des compagnies qui travaillent justement un petit peu à l'interface. Je pense à la compagnie ici même, par exemple, Paris Markets, qui a développé un projet très, très intéressant de street booming. C'est un petit peu ça. C'est comment on joue avec ces formes-là pour les relancer.
Street booming.
Vous pouvez regarder sur Internet. Il y a des tas de choses sur le street booming.
D'ailleurs, bon, effectivement, Internet reste un espace partagé pour l'instant. On comprend aussi à le voir que il suffit d'accorder des espaces communs à la créativité pour qu'ils débordent de propositions et puis qu'ils soient effectivement des témoins d'une créativité énorme et puis qui d'ailleurs inquiète plus d'un gouvernement. On le voit aujourd'hui, hein. C'est aussi un espace public qui tend à se restreindre avec Adopi et même au niveau international. On voit que c'est un espace public qui a envie d'être dominé comme les autres. Mais en tout cas, effectivement, c'est un espace qui est partagé et qui est investi par les artistes.
Au niveau de la visibilité des arts de rue en France, j'ai été marqué par un retour d'Avignon. C'était Lifshin du Théâtre de l'Unité qui disait beaucoup de. On parle dans toutes les discussions sur le théâtre à Avignon, qui est la place du théâtre en France. La part des arts de rue est vraiment extrêmement réduite, extrêmement congrue. Est-ce que toi, tu as travaillé sur la visibilité, sur le regard de la France sur ces arts de rue?
Ce qu'on peut dire quand même, c'est que systématiquement, quand on parle du théâtre aujourd'hui, on finit quand même par citer les arts de la rue, ce qui est un vrai progrès. C'est-à-dire depuis une quinzaine d'années maintenant, dans tous les débats, le Syndéac, par exemple, qui est le syndicat des directeurs d'entreprises artistiques et culturelles, qui est un peu le MEDEF du spectacle vivant, il y a des représentants des arts de la rue, et quand ils prennent la parole au nom du secteur du spectacle vivant, voilà, ils citent toujours les arts de la rue. Donc ça, c'est un progrès. On cite le cirque, les arts de la rue, la marionnette, c'est pas uniquement le théâtre et le théâtre
ça
de
bouge.
Texte. Voilà, ça c'est positif. Après, il y a toujours une hiérarchie symbolique qui existe, effectivement. C'est toujours le théâtre avec un grand T, le théâtre de texte qui domine, qui reste tout en haut de l'affiche. Avignon, il y a très peu de spectacles hors les murs, on va dire. Il y en a eu à une époque, il y en a quand même assez peu aujourd'hui. Ça se passe à Villeneuve-les-Avignons, juste à côté. Parallèlement, pendant le festival, il y a un autre festival sous chapiteau de théâtre itinérant, un peu de théâtre de rue. Bon, c'est un peu à la marge, effectivement. Donc le tableau est contrasté, je dirais. À la fois, il y a une reconnaissance, il y a une conquête. Aujourd'hui, les arts de la rue existent, sont reconnus comme un secteur institutionnel. Ils sont dans le paysage, mais à une place qui reste assez marginale. Donc il faut continuer le combat, probablement, et peut-être aussi ouvrir, élargir. C'est-à-dire que les arts de la rue, oui. Peut-être qu'il faut parler des arts de l'espace public de façon plus générale, créer plus de porosité avec les arts plastiques, ce que font les architectes dans l'espace public. Il y a des collectifs d'architectes qui ne construisent pas, mais qui créent des situations, qui interrogent la manière dont on fabrique la ville, un peu différente. Les gens qui travaillent dans le multimédia, sur Internet, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, moi, je défends l'idée, voilà, de la création artistique dans l'espace public. Pas que des arts de la rue au sens historique du terme, mais une approche un peu plus large, un peu plus ouverte. Parce que c'est une façon de réoxygéner aussi le secteur, de faire de créer de la circulation, des connexions entre des champs de la création qui se côtoient, mais qui ne se connaissent pas forcément bien. Donc, voilà, plus de brassage, plus de circulation, ça me semble.
Il
n'y
avait pas d'architecte,
utile.
Par exemple, à la réunion tout à l'heure, d'architecte
d'urbaniste.
Voilà.
Alors, non, il y avait un élu à l'urbanisme, d'ailleurs, que j'aurais quand aimé même entendre quand on a cité cette histoire ubuesque de l'arbre mis en cage. Bon, il n'a pas pris la parole, c'est dommage, alors qu'il est élu en charge de l'urbanisme. Bon, voilà une question qui aurait mérité peut-être d'être plus largement abordé. Hein. Moi, je suis absolument effaré par la bêtise politique qui a conduit effectivement des élus à construire donc autour d'un arbre ici, rue de Brest, une palissade, un grillage, à installer un grillage pour empêcher que des gens se réunissent autour de cet arbre. Voilà comment on traite l'espace public.
Un petit
public.
Rappel historique, c'est parce que c'est ce qu'on appelle l'arbre à capsule en fait, parce qu'il fait de mystérieux fruits qui sont des capsules qu'on retrouve sur le sol. En fait, c'est un rendez-vous pour boire des coups et pour tchatcher. Pour une population plus ou moins marginale, du coup, et en isolant cet arbre, il y a une volonté de la mairie de dire dégagez, cachez-vous, allez ailleurs, c'est ça ?
Quel message politique, quel symbole ?
Ouais, effectivement, c'est à qui appartient l'espace public ?
Claude Morisure.
Donc à celui peut-être qui le revendique. Alors quand on, enfin alors là, c'est une hypothèse. Quand on est élu municipal, on est tenté d'écouter celui qui l'utilise cet espace public pour vendre. Nous, on en sait quelque chose parce que on en est arrivé à négocier avec les commerçants la place Allende pour y poser le spectacle. Le temps, oui, mais s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de parking, il n'y a pas de clients. Donc ça c'est une façon. Donc alors, les élus sont insensibles à qui écoute-t-on ? Est-ce qu'on écoute celui ou un habitant ou l'habitante qui est effrayé ou qui a peur de la chose étrange ou de l'inconnu? Buratini, dans son Entresort sous Jabberwock, traite vraiment de cette question. Comment regarde-t-on l'autre, celui qui est différent? Alors, ouais, là, c'est vraiment politique. Bon, il se trouve que là, donc, dans ce cas précis, les élus de Morlaix ont été tentés d'écouter plutôt les plaintes, plutôt que de parier sur, donc, tout ce que peut apporter un espace public librement partagé. Cela dit, ça c'est, il faut se rendre compte aussi que ces espaces publics, nous les bons citoyens de gauche que nous sommes, nous avons tendance à le laisser, ne pas l'utiliser. Hein, dans notre quotidien, on passe d'un espace privé de notre voiture à un autre espace privé, et donc dans notre quotidien, on ne l'utilise pas nous-mêmes.
Oui, il faut faire attention effectivement parce que c'est des problèmes compliqués. Moi, je suis bien d'accord. Hein, c'est pas simple cette histoire. Et il s'agit pas d'avoir une posture, de la bonne conscience de gauche face à ça, mais simplement de dire que la réponse est certainement ubuesque et certainement absurde. La question est compliquée, mais la réponse, par contre, est d'une simplicité tellement consternante qu'elle doit nous faire réagir, hein, sans forcément encore une fois en rester à. Voilà une position, disons, de la morale de gauche et de la bonne conscience de gauche, mais au moins déjà dénoncer ça, se révolter contre ce symbole. Les élus ont une responsabilité symbolique très importante. En agissant de la sorte, ils créent une image, ils envoient un symbole qui est terrifiant. Moi, je reviens j'étais en Autriche, un festival de marionnettes et théâtre de rue hier, ces derniers jours. C'est la vision de la société d'une grande partie des hommes politiques en Autriche, des partis d'extrême droite qui veulent effectivement mettre l'étranger et l'étrange dehors. Et 40% des 16-18 ans ont voté aux dernières législatives en Autriche pour ces partis d'extrême droite, pour Jörg Haider, pour Strache, des gens qui défendent cette conception de l'espace public. Donc je crois qu'il faut être très vigilant. Problème complexe sans doute, réponse ubuesque. Réagissons, enfin, ne laissons pas ce genre de symbole se développer dans la ville, dans l'espace public. On a une responsabilité citoyenne face à la bêtise.
Surtout que là, on peut... C'est ouvert, là.
Ah bah, alors, c'est justement, on a une super transition avec votre histoire d'arbre, parce qu'on a un nettoyeur de vent qui est venu parmi nous, Nicolas Jangou, pour ce qui est du nettoyage de vent, hein, qui est une sorte d'ostéopathe des arbres, et qu'on a pu voir officier dans de nombreux festivals récemment. Est-ce que tu peux juste te présenter
Oui, donc moi je m'appelle Didier.
Oui.
Voilà, j'ai un spectacle qui s'appelle Le Nettoyeur de Vent, qui est un ostéopathe, enfin on dit de lui que c'est un ostéopathe végétal qui revitalise les arbres de la ville, les arbres de trottoir justement, uniquement, pas dans les arbres de parc. Donc son but c'est de redonner la mémoire de la forêt aux arbres de la ville.
Et donc tu peux nous donner l'opinion de l'arbre, des arbres sur cette situation
Je ne peux pas me permettre de donner une opinion d'arbre puisque je ne parle pas le langage des arbres et je suis
son
trop
ressenti. Peut-être tu as ressenti un traumatisme chez les arbres par rapport.
C'est bien de garder ce côté humble. Je trouve d'ailleurs que les hommes politiques feraient bien d'en toucher régulièrement un pour se rendre compte quand même qu'on est vraiment petit.
Alors.
Mais voilà. Après, effectivement, en tant que Didier, en tant que Nicolas Jangou, moi cette histoire-là, elle me marque autant. Je dirais autant. Après, oui, on parle de l'espace public, comme disait Claude. Et effectivement, on peut parler des commerçants. Là, il y a même pas de commerçants. C'est un parking de voitures. Donc, ça gêne même pas les commerçants. Ça gêne simplement, effectivement, deux grands-mères, parce que j'ai regardé quand même cet immeuble qui se trouve en face de l'autre côté de la rivière, où il y a des canards, où il y a plein d'algues d'ailleurs. Les algues sont plus emmerdantes, j'imagine, que les gens qui sont perdus. On peut les appeler les clodos ou les voilà,
les punks à chiens.
Après, voilà, il y a plus d'algues qui sont peut-être gênantes pour l'eau que effectivement les punks à chiens qui se trouvaient sous cet arbre. Après, donc voilà, là, ça tient simplement sur 6 ou 7 copropriétaires qui, je pense, ne trouvaient. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que du coup, les punks à chiens ne se trouvent plus sous l'arbre, mais se trouvent au pied de l'immeuble maintenant. Donc alors, ils vont peut-être grillager l'immeuble et puis
voilà. Moi, j'aimerais, Didier, que tu nous parles, parce que on parle de l'espace public, de la liberté dans l'espace public, de la manière de l'investir. On a parlé de la structuration des arts de la rue, tout ça, de la capacité qu'on a en France, cette exception culturelle, le fait aussi de la commercialisation un peu, le fait que maintenant il y a beaucoup de festivals qui ressemblent à une série de programmations, une espèce de grand marché, le marché des arts de la rue qui s'institutionnalise. Et tu me parlais hier soir assez tardivement, en tout bien tout honneur, n'est-ce pas? d'une expérience que vous menez qui s'appelle la choucroute garnie autour de Nantes, qui est une prise de l'espace public peu hors norme.
Oui, qui est une prise politique, attention, parce que après, effectivement, moi je suis sur le rapport de Buratini, un peu dans le même principe, on n'est pas obligé de faire du spectacle politique. Ça c'est clair, c'est des démarches précises. Le nettoyeur de vent est une démarche politique peut-être à travers son histoire, mais c'est pas la recherche. Après, effectivement, la choucroute garnie est une démarche de sociopolitique, on va dire. C'est des images de rue à travers les actions politiques que mènent nos gouvernements, qui actuellement, moi je reviens toujours à cette arme, qui je trouve que c'est effectivement UBX, mais je trouve ça extrêmement dangereux, surtout. Extrêmement grave pour nos enfants, au même titre que interdire de sourire sur une pièce d'identité et photomaton, c'est-à-dire ce petit oiseau qui ne sort plus, ce rêve, comme nous on l'a vécu, on est des gens entre 23, toi et puis.
Oh, des sabres!
Il est content,
et puis 50 personnes de 50 ans. Non, mais voilà, c'est-à-dire que cette prise de conscience pour moi a été marquée effectivement par. Je parle pour revenir un peu à la choucroute garnie. Parce que ça s'appelle la choucroute garnie, c'est un collectif qui n'est pas un collectif, mais c'était cette image de voir mes enfants rentrer un jour de la photo qu'il fallait faire pour l'école, donc pièce d'identité, et tous les deux, j'ai des enfants qui vont pas trop mal, qui sont pas dépressifs, pas encore, les parents ne le sont pas, donc... Et puis d'un coup, de voir nos enfants, et ma compagne et moi, on a regardé la photo avec la même gueule, en disant « Mais oh, mais vous faites la gueule, quoi !» Ça fait il y a 2 ans de ça. Et du coup, ils nous disent « Bah oui, parce qu'on a plus le droit de sourire dans les photomatons. » Et on peut obliger des gens à mettre une ceinture de sécurité, on peut obliger des gens à aller pisser ailleurs que voilà. Mais empêcher les gens de sourire, pourquoi? C'est-à-dire que nous, on a une génération.
Pour toi, c'est un emblème de quelque chose de très important, enfin, qui se passe dans cette société.
Oui, je trouve que c'est un emblème, énorme, parce que c'est le rire est important. Enfin, c'est pas Dario Fo en a parlé, il y a Molière en a parlé, tous les gens. C'est-à-dire que quand même, le rire fait partie de notre vie. On est là pour rire, on n'est pas là pour faire la gueule ou quoi que ce soit.
Eh ben si, c'est terminé. C'était la bonne époque.
Bon, à demain, merci. Hein.
Les talibans ont interdit, comme on le sait, plusieurs choses quand ils ont eu il y a quelques années le pouvoir, notamment de jouer au cerf-volant, ouais. De danser et de rire en public. Le rire était interdit en public.
Ouais, et puis ils ont aussi attaqué le quartier des musiciens à Kaboul. Beaucoup de musiciens ont été obligés de partir, aller ailleurs. Bon, voilà.
Effectivement, c'est quand même. Moi, c'est quand même quelque chose que je trouve vraiment symbolique. De notre réalité démocratique à l'heure actuelle quand même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben on va nous empêcher tranquillement de rire,
de faire de la radio,
de faire de la radio. J'espère pour vous, vous en même temps, vous mieux vous fassiez que vous soyez à la télévision avec la gueule que vous avez.
Mais pourquoi tu crois qu'on fait de la radio justement?
Non, mais c'est vrai que ce voilà. Et du coup, je trouve que enfermer un arbre, pour moi, enfermer un arbre, c'est la même accalmie, c'est ça, je trouve.
Ouais, comme on dit, hein. Du même acabit.
La même accalmie, moi j'aime bien ça.
C'est de la même accalmie. Hein.
C'est-à-dire que voilà, il y a quand même. Et puis en plus, l'arbre de vie, l'arbre sur le symbole. Enfin, moi je travaille là-dessus, donc forcément je suis rentré dans les symbolismes.
Tu vas nous en parler de la choucroute garnie, oui
voilà. Oui, je vais te parler de la choucroute
Monsieur garnie. Le psychopathe des arbres.
Et du coup, je trouve ça honteux. Donc toutes ces actions ont fait qu'un jour on a monté une structure qui s'appelle, une histoire qui s'appelle la choucroute garnie. Ça a commencé par la présence de Nicolas Sarkozy entre autres, de Kadhafi à Paris. Quand même, c'est-à-dire qu'on est dans un air où il faut combattre le terrorisme, et puis quand même, Kadhafi, ça a été un des exemples flagrants à travers une grosse époque. Et du coup, ça nous a outrés. Bon, il y a plein de choses qui nous outrent, c'est clair, mais comme on est sur la politique, commerciale à l'heure actuelle, on s'est dit, et puis donc toujours prendre les journaux, toujours être sur les journaux, toujours, on s'est dit, mais on va réagir à ça, donc comment on peut faire à travers nos métiers. Donc on s'est dit, ben on va recevoir Kadhafi à Nantes, puisqu'on est de Nantes, donc on a reçu Kadhafi, on a reçu notre président de la République, on a reçu entouré de ses gardes du corps, et puis notre président donnait des petits avions en papier, parce qu'il y a aussi des histoires, forcément, si on reçoit des gens, c'est quand même pour rentabiliser l'armement, par exemple, français, et ainsi de suite. Et puis on avait un Kadhafi qui balançait des avions, voilà, donc on est sorti pendant une heure dans la rue, on balança sur Dailymotion, c'est la choucroute garnie en un seul mot, mais l'idée avant tout, c'est de dire, voilà, et ben à travers notre métier, c'est-à-dire qu'on est effectivement des artistes pour certains, des profs pour d'autres, des chômeurs pour d'autres, on se réunit quand il y a quelque chose qui nous outre, on va dire, et puis on monte très rapidement une histoire, et puis on la sort dans la rue. On a fait le premier cimetière d'État, place de la Bourse, pour enterrer les acquis sociaux. On a fait la chasse aux précaires, chasse à cour aux précaires, place Royale à Nantes. On a été distribué aussi aux banques de l'argent des prolétaires, enfin de notre argent à nous, des
euros. Sauver.
Comment ?
Pour les sauver de la faillite.
Pour les sauver de la faillite, on a été collé sur toutes les banques du centre-ville, des autocollants en faillite, soldes et puis liquidation totale.
Voilà. Donc des actions qui ne sont pas annoncées, hein, qui sont toujours impromptues.
Voilà, sans autorisation, sans
autorisation, voilà, et qui réunissent un groupe mouvant de personnes à chaque fois.
Voilà.
Pas de problème avec la police jusqu'ici.
Là, je crois que les gens sont. Je crois qu'il y a une déstabilité. On arrive à déstabiliser les gens. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand on n'est pas dans quelque chose de formaté, de précis, les gens, on a rencontré des gendarmes qui ont dit,
mais on les prend de vitesse, quoi.
Voilà, on les prend de vitesse. Et ça, ils savent pas.
Excusez-moi.
On va
chanter une chanson. Ah,
c'est peut-être le signal.
Non, mais c'est
intéressant. L'émission touche à sa fin.
Il y a un peu de ça. Non, c'est pas fait exprès du tout. Mais c'est drôlement intéressant ce qu'il dit. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la structure que tu représentes. Comment est-ce qu'on peut faire pour participer à ces trucs complètement débiles que vous faites? bête et en fait pas si débile que ça. Enfin, en tout cas, débile pour la société entre guillemets.
Ou... Alors par exemple, on a fait avec ça s'appelle la choucroute garnie. Vous trouvez voilà. ça sur Dailymotion. Je crois qu'il y a un blog. Vous pouvez être réactif et puis envoyer vos coordonnées. De toute façon, on est tous surveillés, donc on les a ils ont tous nos
oui,
coordonnées.
Oui, il y a longtemps donc, que oui.
L'avantage c'est qu'on commence à avoir de l'âge et qu'ils nous emmerdent plus parce qu'on n'est pas rentable pour eux. Je crois qu'ils sont plus embêtés les jeunes de 20 ans et parce que c'est ceux-là qui posent problème
qui,
pour
qui
l'instant.
Ils travailleront
plutôt que nous quoi. Voilà, ça s'appelle la choucroute en un seul mot. On est basé à Nantes.
La compagnie, la structure, c'est quoi l'association?
Non, c'est
un projet parallèle.
Voilà. C'est un projet parallèle.
Après, voilà. Après, moi, je travaille avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Carabosse, qui n'a rien à voir. Ça, la choucroute garnie, c'est hors norme, on va dire. C'est quelque chose de, c'est du théâtre politique dans la rue avec des gens dont nous, forcément, parce qu'on sait, on est des gens de rue, donc on sait utiliser la rue. Mais après, il y a, il y a des chômeurs, il y a des profs, il y a des instituts, il y a des architectes, voilà, tous les gens qui veulent aller avec nous. On a fait une, lors de la manifestation du 29, la seule manifestation qu'on a faite collective.
C'était le 29 janvier, mai ou janvier, janvier. Ou février ou
janvier. Ouais, 29 janvier.
29 janvier. Mmh. On a fait la choucroute garnie sur Marseille, sur Toulouse, sur Lyon et sur Nantes. Ça s'appelle la vie rêvée de Sarko Ier. Avec toute la tribu et puis derrière les moutons. À Marseille, il y a eu 800 moutons qui bêlaient derrière.
800 voilà. moutons qui bêlaient derrière Sarkozy en voiture officielle un peu.
Donc voilà, et puis après, bon, il y a un parc Sarkozy, il y en a plein aussi. Donc c'est vrai que c'est comme on est dans quelque chose de tapageux, ben, utilisons le tapageux pour faire du tapageux.
Tout à voilà, fait.
Je crois que c'est aussi...
Utilisons les armes de l'ennemi.
Oui, de l'ennemi, du danger, je trouve.
Du danger. Bon.
Alors avec tout ça, on n'a même pas parlé de la compagnie que Didier vient représenter, Carabosse, donc qui était un autre chose. C'était passionnant, mais bon, on va quand même rapidement, hein, peut-être avant de rendre l'antenne, évoquer le travail que vous faites avec Carabosse sur le phare.
Voilà, donc Carabosse, c'est une compagnie d'installation de feu qui est connue un peu partout.
Qui était à Rennes au tombé de la nuit il y a pas longtemps.
Voilà, au tombé de la nuit, qui va revenir à Brest là. Et à travers Carabosse, on a monté un spectacle deux. Il y en a un qui s'appelle Les Cocottes et l'autre que je représente avec Stéphane, Mathieu, René. Et puis là, voilà, c'est l'histoire de trois, vieux puceaux qui sortent pour la première fois en public grâce à la compagnie Carabosse qui les a rencontrés, leur manège, leur philoscope. C'est un peu, il y a quelque chose du petit Pierre à l'intérieur de ça. Il y a, c'est quelque chose, c'est un spectacle qui pour moi touche. L'idée, c'est pas de faire du rire le grand public ou le public qui vient, mais c'est que les gens soient aussi voyeurs, soient aussi gênés de ce bout de vie de ces trois frères là. Qui vivent ensemble depuis leur naissance et de raconter cette histoire-là. Voilà.
D'accord.
La compagnie Carabosse. Allez.
Voilà, on arrive à la fin de cette émission. On va pas pouvoir trop traîner non plus parce que après il y a des enregistreurs qui s'arrêtent et tout. Puis après on peut plus avoir toute l'émission.
Merci. À plus tard.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Didier.
Vous êtes pas vilain. Vous inquiétez pas. Vous pourrez faire Canal Plus bientôt.
Merci. Super.
Jamais de la vie, jamais avec ces gens-là.
Loin de nous
cette idée. Et puis ben voilà, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'on a des choses hyper importantes à dire, à raconter? Quoi,
Raoul? De pas oublier d'envoyer le jingle d'au revoir.
Voilà. Alors ah oui, c'est ça. Oui, il faut que j'aille le chercher déjà. Et puis quoi d'autre?
Et puis bien sûr de rappeler une dernière fois que nous sommes à Morlaix, que c'est un fantastique festival des arts de la rue, que vous avez l'occasion de venir vivre avec nous toutes ces aventures particulières dans l'espace public. Oui,
youpi,
rejoignez-nous, venez avec nous, sortez, jetez votre télévision, à nous la vie, à nous l'espace public, à nous le phare.
Au revoir, c'est bien qu'on s'ennuie, mais y a un car qui nous attend, les fameux autocars Coca, jamais en retard. C'est pas qu'on s'ennuie, mais y a un car qui nous attend, les fameux autocars Coca, jamais en retard. Au revoir, Morlaix.
Les sons des autres sur Canal B.
African Anarchist Radio. All you free Negroes say yeah.
Yeah!